Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Françoise Varlet, document d'archives datant du 29 juin 1994 et diffusé dimanche 7 novembre 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. C'est vraiment très très chaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Oui, il fait chaud. Bonsoir Serge.
Bonsoir Françoise. On n'a vraiment pas envie de travailler beaucoup. Mais enfin quand même, puisqu'il faut y aller, on va y aller. Donc, ce soir, on a fait une petite soirée légère. D'abord, enfin en ce qui me concerne, puisque... pardon. C'est la soirée des fous du roi. Donc à partir de 19h30, vous entendrez Daniel Amich et ses invités. Jusque-là, j'attends Philippe Randa pour son livre Patton, un livre qu'il a consacré au général américain Patton, dit le général Audace. Et puis Valérie Delahaye qui va venir nous parler des aides à l'entreprise. Vous savez que on nous explique que étant donné que la situation est grave mais pas désespérée, il faut aider les jeunes créateurs d'entreprises. Monsieur Barr avait dit il y a quelques années, les chômeurs pour s'en sortir, ils n'ont qu'à créer des entreprises. Alors, ce qui était effectivement une très très bonne idée. Lui, pour autant qu'on sache, il n'a pas créé beaucoup d'entreprises. Il a surtout participé à la mise en faillite de l'entreprise France. Mais, nonobstant, il a donné cet excellent conseil. Et l'État est censé apporter des aides diverses et variées, à la création d'entreprises. Alors on va voir avec Valérie Delahaye comment ça se passe, puisque Valérie Delahaye a créé maintenant, il y a quelques mois, un restaurant à Paris. Et elle va nous expliquer comment se déroule le service des aides à l'entreprise. Mais avant ces invités, je voudrais faire un petit tour de l'actualité. Alors on va commencer à tout seigneur, tout honneur, par la fête du livre de Radio Courtoisie, qui a été, comme tous les ans, un très grand moment. Je pense qu'il y a eu... Il semblerait qu'il y ait eu plus d'invités encore que les autres années.
Oui, il y a eu beaucoup de monde, énormément de monde.
Beaucoup de monde, il faisait très très chaud. Le buffet, ça c'est la chaleur qui fait ça. Le buffet n'a pas, semble-t-il, résisté au nombre des invités. Et il semble que, d'ailleurs, les stocks de livres n'aient pas résisté non plus, puisque les auteurs étaient très très contents d'avoir eu des contacts avec beaucoup d'auditeurs. Je crois qu'on peut dire qu'il y avait à peu près 1500 personnes. Je ne dirais pas que j'ai vu les 1500, mais il y en a au moins facilement 20% qui sont venus me dire bonjour. Et le soir, j'avais la main qui ressemblait à un énorme morceau de bout de veau, mais... c'était très très sympathique et très charmant. Alors il se passe une chose bizarre, c'est que ces jours-ci, un institut de sondage qui s'appelle Médiamétrie a rendu public une enquête, 75 000 Médiamétrie, sur le fonctionnement des radios libres, ou des radios plus exactement de la modulation de fréquence. Alors, les caractéristiques de cette enquête, c'est que 3060 interviews ont été réalisées en Île-de-France, dont 649 sur Paris, entre le 4 janvier et le 4 avril 1994, pour la période lundi-vendredi, représentative de la population âgée de 15 ans et plus, représentativité socio-démographique et géographique des interviews, avec équirépartition entre les jours d'enquête, procédure d'interview téléphonique assistée par ordinateur. Et cette enquête est fondée sur l'audience cumulée des différentes radios de la modulation de fréquence. Médiamétrie précise que dans le communiqué de presse concernant l'audience de la radio établie à partir de l'enquête 75 000 Île-de-France, figure seule l'audience des stations et réseaux atteignant 1% d'audience cumulée en Île-de-France pour un jour moyen de semaine, lundi au vendredi. L'audience des stations et réseaux atteignant 2% d'audience cumulée à Paris pour un jour moyenne de semaine, lundi, vendredi. Les stations et réseaux n'atteignant pas ces seuils apparaissent néanmoins au sein de fourchettes d'audience dans ce communiqué. C'est formidable, le langage est quelque chose de... Le français. Je comprends que M. Toubon s'attache à la défense de la langue française. Il a vraiment besoin d'être défendu quand elle est parlée et quand elle est écrite comme ça. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez compris, en gros... Cette enquête est censée nous donner les taux d'écoute en audience cumulée des différentes radios du lundi 5h du matin au vendredi 24h. Alors, ces messieurs et dames ont divisé la bande FM en ce qu'ils appellent agrégats par format. Alors, vous avez les radios en général, les programmes généralistes, les programmes musicaux nationaux, les autres programmes thématiques nationaux et les programmes locaux. Les radios en général représentent 82% d'audience cumulée. Ça, c'était en janvier-mars 1994. C'est en baisse par rapport à septembre-décembre 1993, où ça représentait 83%. Les programmes généralistes représentent 43,3%. On ne sait pas bien d'ailleurs quelle différence peut y avoir entre radio en général et programmes généralistes. Enfin bon, les programmes musicaux nationaux représentent 32%, les autres programmes thématiques nationaux 15,7% et les programmes locaux 21,8%. Radio France, qui est lui-même un format spécial, représente 26,6%. Et les agrégats par statut, radio du service public, radio privée commerciale, radio privée associative. Alors, les radios du service public, 27%, les radios privées commerciales, 67%, et les radios privées associatives, 2,6%. Alors, on découvre qu'en audience cumulée, RTL fait, en Ile-de-France, 22,1%. Tout ça, c'est valable pour l'Île-de-France. Hein. Europe 1, 15,8%. France Info, 13,6%. France Inter, 11,6%. Énergie, 9,6%. Fun Radio, 9,1%. Bon, etc., etc. Il faut savoir que ces chiffres sont les chiffres de pourcentage des gens qui ont écouté la radio au moins une fois dans la journée considérée, sans aucun compte tenu de la durée d'écoute. On dit, si vous zappez sur la bande, vous écoutez toutes les radios, ça leur fait un auditeur à chaque fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je vous raconte tout ça, dont vous vous fichez à peu près autant que moi, je m'en vais vous le dire tout de suite, c'est que est joint à ce sondage un petit papier qui évoque les stations dont l'audience cumulée est comprise entre 0,5 et 0,9%. Il s'agit de Média Tropical, de Radio Bleu, Radio Latina, Radio Notre-Dame, Radio Orient, RFI. Et les stations de l'audience cumulée est comprise entre 0,1 et 0,4%. Et il s'agit de Africa numéro 1, Autoroute FM, Beurre FM, BFM, Chante France, Féminin Pluriel, FG98.2, Ici et Maintenant, OFM99.9, Radio Alpha, Radio AIP, ou AYP, Radio Évasion, Radio France Melun, Radio Jungle et la Boucle, Radio J, Radio Libertaire, Radio Maghreb, Radio Nord Seine-et-Marne, Radio Shalom, Radio Soleil, RCJ, RMC, Sweet FM, Tour Eiffel 95.2, TSF, YFM et Radio Courtoisie. Autrement dit, d'après le sondage de Médiatri, sur les radios FM, Radio Courtoisie disposerait d'une audience cumulée de 0,1 à 0,4% en Île-de-France et à Paris aussi d'ailleurs. Ce qui, si on rapporte ces évaluations à la valeur du point d'audience cumulée, signifierait que Radio Courtoisie aurait à Paris au minimum 1843 auditeurs, c'est-à-dire que vous étiez tous là dimanche, et je vous en remercie. et au maximum en Île-de-France, 34 692 auditeurs. Alors on peut faire plusieurs... Moi, je suis de ceux, contrairement à Jean Ferré, par exemple, qui en parle souvent à son micro, qui considère que les sondages sont la plus belle imposture de l'après-guerre. Ils sont sujets à toutes les manipulations. Alors, surtout d'ailleurs, du fait qu'on ne sait jamais ce qu'ils disent exactement. Là, par exemple, je vous ai dit, je vous ai expliqué, je vous ai lu le texte de Médiamétrie. C'est totalement imbitable, comme on disait à Polytechnique, paraît-il. Il paraît qu'on dit ça à Polytechnique. J'y suis jamais entré, même pour visiter. Mais il paraît qu'on dit ça. C'est totalement incompréhensible, c'est inextricable. Alors, on nous dit, il y a au moins à Paris 1843 personnes, et au plus dans l'Île-de-France, 35 000 personnes, disons pour arrondir, qui au moins une fois dans la journée écoutent Radio Courtoisie. C'est ça que ça voudrait dire. On ne dit pas pendant combien de temps, et on ne nous dit pas combien de fois, car imaginez que 180 personnes zappent 10 fois par jour sur la bande FM, ça y est, on a notre chiffre, parce qu'on a eu 1800 écoutes, et c'est fini. Mais c'est comme ça, c'est ça que ça veut dire. Alors, la première remarque, c'est celle-là. La deuxième remarque, c'est que si vraiment on n'a que 1843 auditeurs à Paris, donc vous étiez tous là dimanche, comme je l'ai dit, et c'est très gentil, mais il y a autre chose. La police de la pensée compte combien de fonctionnaires? Parce qu'étant donné qu'ils nous écoutent tous, il faut donc les réduire, parce que eux, c'est pas pour le plaisir qu'ils nous écoutent. C'est pour le travail. Il faut donc les retirer de notre écoute. Alors... Exactement, c'est pour ça qu'il n'y a eu que 1500 personnes dimanche. Les 343 qui manquent, c'est des flics. Bon, Dieu merci. J'ajoute que si on avait effectivement 1843 auditeurs, ça ferait en gros 360 000 francs par mois, par an, pour faire tourner la radio. Et je peux vous dire que même sur une radio de bénévoles, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé dans mon calcul. 200 francs. Oui, mais en supposant, quand même, si en plus ils cotisent pas tous, alors c'est pire que tout. En supposant que tous les auditeurs cotisent, ce qui est la moindre des choses, ça nous ferait donc 360 000 francs par an, autrement dit 30 000 francs par mois, autrement dit 1000 francs par jour, ça ne paierait pas TDF. Ça ne paierait même pas la diffusion des émissions. Donc, je soupçonne ce sondage d'être totalement fantaisiste en ce qui concerne les audiences des petites radios. Et comme par hasard, ce qui est très intéressant, voyez-vous, et c'est la dernière remarque que je ferai, c'est que toutes les radios qui sont créditées d'une écoute négligeable sont des radios qui ne font pas de publicité. Voyez-vous ? Toutes les radios qui font de la publicité, c'est-à-dire qui vendent leur auditoire, elles ont des audiences confortables. Pourquoi ? Parce que si on disait que Radio Duchemol, qui vendent l'espace publicitaire, a 0,1% d'écoute, on porterait atteinte à son crédit de marchand de publicité, de marchand d'espace, et par conséquent, on lui porterait un préjudice commercial. Et donc, Radio Duchemol serait parfaitement fondée à poursuivre l'Institut de sondage et à exiger que des preuves soient produites du bien fondé des chiffres avancés. Tandis que quand vous êtes une radio totalement libre, totalement sans publicité, qui ne vit que des cotisations des auditeurs, le préjudice commercial n'est pas pris en compte, évidemment, et par conséquent, on peut très bien apporter un préjudice que j'appellerais un préjudice de crédit, un préjudice d'audience, un préjudice politique, au fond, à cette radio, en disant: écoutez, cette radio est très peu suivie, a très peu d'auditeurs. Mais tout ça serait très intéressant et très remarquable et notable si ça ne se heurtait à un tout petit détail. Et si ça ne supposait une comparaison, enfin si ça ne plutôt s'effondrait pas devant une comparaison qui est facile à faire, c'est la prétendue audience de notre radio, selon Médiamétrie, et les comment appellerons-nous cela, les échos médiatiques de cette radio. Il se passe pratiquement pas de semaine sans qu'il y ait, dans tel et tel journal, des attaques directes contre Radio Courtoisie. Donc si effectivement on avait le nombre d'auditeurs qu'on nous prête, je ne pense pas que des journaux qui vendent de l'espace publicitaire à grand prix, je ne pense pas qu'ils consacreraient cet espace publicitaire ou cet espace d'imprimerie très coûteux à raconter des choses sur Radio Courtoisie. Donc à mon avis, ça n'est pas vrai. Ce sondage ne correspond à aucune réalité. Et pourquoi j'en ai parlé aussi longuement, comme me le reprochent certains auditeurs déjà, c'est parce que, à mon sens, ce genre de sondage pourrait bien préparer des projets que j'appellerais radiodicides ou courtoisicides. Il est évident que si on envisage de ne pas permettre à Radio Courtoisie de s'étendre, ou si on envisage de laisser Radio Courtoisie s'éteindre, c'est beaucoup plus facile de le faire si on a préalablement préparé l'opinion publique en disant personne n'écoute cette radio, que si les gens pensent à bon droit que nous sommes effectivement écoutés. J'ajoute que c'est la première fois, me semble-t-il, que ce genre de sondage est publié depuis que Radio Courtoisie existe, car jusqu'à présent, pour figurer dans un sondage sur les radios de la bande FM, pour avoir des résultats de sondage, il fallait cotiser, il fallait apporter sa dîme, en quelque sorte, au paiement des sondages effectués. Ce que, naturellement, Radio Courtoisie avait toujours refusé de faire, pour la simple raison que, n'ayant pas d'espace à vendre, nous n'avons pas besoin de faire connaître à d'éventuels annonceurs le nombre de nos auditeurs. Voilà, j'étais un petit peu long sur cette question, mais c'est pas gratuit du tout. C'est parce que je pense que plus que jamais la vigilance est de mise, et qu'il faut pas mettre à profit, je dirais, les vacances pour baisser les bras. On a bien vu dimanche d'ailleurs que les auditeurs ne baissaient pas les bras, parce que je ne connais pas beaucoup d'organes de presse ou d'organes de radio qui pourraient, un dimanche du mois de juin, par une chaleur comme celle que nous avons connue, réunir 1500 personnes à la mutualité qui payent 150 francs d'entrée pour acheter des livres et rencontrer des écrivains et des auteurs. Ça, c'est un témoignage de vigueur et de vitalité que tous les sondages ne peuvent pas, avec lequel aucun sondage ne peut rivaliser. Donc, je vous le dis, c'est une initiative personnelle. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant pendant les mois qui vont venir sur le comportement de la force publique, de l'autorité publique en ce qui concerne Radio Courtoisie. Voilà. Alors, cela dit, la fête était superbe. Il y a eu une autre fête superbe, ça a été la fête de Riaumont. Alors, j'avais vu, d'ailleurs, donc samedi, avant la fête de Radio Courtoisie, on a vu beaucoup, beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie. Radio Courtoisie a d'ailleurs été saluée comme une radio amie par le père Argouache, qui est le supérieur de la communauté Sainte-Croix de Riaumont. Et on a vu un spectacle son et lumière tout à fait admirable. C'est très éloigné de la vilaine caricature qu'on donne parfois des feux de camp scouts. Ça a été un véritable spectacle, comparable, toute proportion gardée, au Puy du Fou ou à certains spectacles de Haussène. C'était un spectacle de véritables professionnels, fait par des enfants. Et son aspect professionnel était lié à la collaboration, comme chef d'orchestre en quelque sorte, d'un monsieur qui s'appelle François Melchiori, et qui est l'homme qui a organisé, comme on dit maintenant, finalisé le spectacle, et qui est également celui qui avait orchestré les commémorations des débarquements de Normandie, du débarquement de Normandie, et qui orchestre les prochaines commémorations du débarquement de Provence. Donc c'est un grand, grand professionnel, et le résultat a été un spectacle absolument magnifique. Alors, je consacre cette... Pour ceux qui n'ont pas pu y aller, je leur signale qu'une cassette a été tournée, qui sera prochainement disponible, on en parlera, et vous verrez que ça valait vraiment la peine de faire le déplacement. Probablement, à titre tout à fait exceptionnel, une autre représentation aura lieu un jour, on ne sait pas encore quand, peut-être l'année prochaine, c'est pas certain, mais le père Argois, je pense qu'il redonnera, il fera redonner aux enfants le même spectacle. Et en attendant, on pourra donc acheter cette cassette. Et puis si vraiment on ne peut pas attendre, il y a un grand papier qui parle de ça dans le libre journal de la France courtoise. Alors je vais rappeler l'adresse parce que apparemment il y a toujours un gros gros problème de communication avec Radio Courtoisie, puisque quand on téléphone à Radio Courtoisie, on obtient toujours une réponse négative quand on demande l'adresse du journal. J'en suis désolé, mais je sais pas, ça doit être des problèmes de phosphore ou nourriture à base de poisson insuffisante ou des choses comme ça. Donc, je redonne l'adresse. Le libre journal, c'est 139 boulevard de Magenta, 75010 Paris. Et les chèques d'abonnement, qui sont de 600 francs, l'abonnement étant de 600 francs, sont à adresser à SDB, sont à libeller à SDB. SDB, c'est un sigle extrêmement mystérieux, qui permet de, qui est celui de la société que j'ai créée avec mes amis Varlet pour fabriquer ce journal. Alors, je rappelle, le libre journal, 139 boulevard de Magenta, 75010 Paris. Pour les personnes intéressées qui ne peuvent pas consacrer 600 francs à l'achat de ce journal pourtant excellent, il y a toujours la possibilité de procéder par, de payer avec son tempérament.
Voilà.
Ça s'appelle le pacte abonnement. Et vous demandez ça.
On peut également demander un spécimen en nous envoyant un carnet de timbres, par exemple,
voilà,
pour le recevoir.
Je voudrais maintenant, pour en finir avec la presse, après on parlera de tapis quand même parce que ça vaut le coup, je voudrais rendre à Rivarol ce qui est aussi à Figueras. J'ai annoncé, je crois la semaine dernière, que Figueras à la une de présent avait livré un scoop. Eh bien, il partage ce scoop avec Rivarol, qui avait lui-même raconté l'affaire du général allemand venant, ce général qui s'appelait Gleininger et qui était venu présenter des excuses au maréchal Pétain après la tragédie d'Oradour-sur-Glane. Si vous voulez avoir connaissance de cette affaire, vous pouvez demander à Rivarol de vous adresser son numéro du 17 juin 1994 et en page 8, vous trouverez cette histoire. Rivarol, c'est 9 passages des Marais, 75010 Paris. Voilà. On va peut-être écouter un petit bout de musique et puis on parlera ensuite de l'actualité politique et de Monsieur Tapie. Thank you. très nerveux. C'est de la musique de limonaire, ça s'appelle. Vous connaissez ça, bien sûr. On trouve ça dans les fêtes foraines. Et si vous voulez, tiens, en ce moment, il y a une fête foraine qui va commencer prochainement, qui est la fête des loges, qui est vraiment un endroit très amusant pour entendre du limonaire. Monsieur Tapie pourra aller à la fête des loges, d'ailleurs, parce que Monsieur Tapie est en liberté. Et bon, si vous ne savez pas que Monsieur Tapie a été arrêté ce matin, c'est que vous faites même pas partie des 0,1% qui écoutent la radio heure par heure. Ça, c'est une affaire, l'affaire Tapie, qui est tout à fait extraordinaire, parce que... Il est maintenant parfaitement clair que cette espèce de harcèlement juridique a pour objet de faire de Monsieur Tapie une victime, de lui donner l'allure d'une victime. Parce que il faudrait vraiment, je pense que le magistrat qui a décidé ce matin d'envoyer une escouade de policiers pour arrêter Monsieur Tapie à son domicile, nous prend pour des imbéciles.
Oui.
Ça ressemble tellement à une provocation. C'est tellement inutile. Alors, il suffisait de le convoquer comme on l'aurait fait pour n'importe quel citoyen. Je ne prends pas la défense de Tapine, bien au contraire, rassurez-vous. Mais vraiment, cette histoire de lui envoyer des policiers à 6 heures du matin, de le tirer du lit, de le traîner pratiquement par les pieds, et aussitôt de commencer par l'entendre pour un flagrant délit d'outrage à policier au motif qu'il aurait mal réagi quand les flics sont venus le réveiller à 6 heures du matin, ça ressemble très exactement, ainsi que l'a dit Mauroy, qui est pourtant pas très intelligent, à de la persécution judiciaire et policière. Et on voudrait donner l'impression que M. Tapie est victime d'une persécution, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Je vous rappelle que son indemnité parlementaire a été élevée quelques jours à peine avant qu'elle ne devienne caduque, puisque la session parlementaire va se terminer. Donc c'était pas du tout utile de réunir les députés pendant une après-midi entière pour entendre Monsieur Tapie annonner un texte de défense qui était d'ailleurs parfaitement grotesque, et ensuite pour se prononcer sur son immunité qui allait sauter deux jours plus tard. C'était encore plus inutile de venir le réveiller le matin à 6h, pour que son frère puisse dire qu'on l'avait traité comme un terroriste et un malfaiteur, et pour qu'il puisse prendre des airs de pauvre victime. C'était d'autant plus inutile que, contrairement à ce qui arrive dans ce genre d'occurrence, on ne l'a pas mis en détention provisoire, mais on l'a remis en liberté dans l'après-midi, sous contrôle judiciaire, et par conséquent, il n'était pas nécessaire d'agir de cette façon. Donc il faut s'interroger, comme le système n'a pas l'habitude d'agir de façon incohérente, il faut s'interroger sur les motifs profonds de ce comportement, qui est un comportement apparemment incohérent. Eh bien, c'est tout simplement qu'il s'agit de redonner une auréole de martyr à M. Tapie. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, bien que ce ne soit pas tellement ma tasse de thé, je signale que Le Monde, à la une du Monde ce soir, il y a un dessin de M. Plantu qui montre... Tapie derrière des barreaux et la justice est devant la cellule. Elle est affublée d'une pancarte, la justice, sur laquelle on lit attaché de presse. Et Monsieur Tapie lui dit à la justice, est-ce que je pourrais encore compter sur ton aide pour, est-ce que je pourrais encore compter sur vous pour les prochaines municipales? Autrement dit, même Plantu a compris que le harcèlement judiciaire dont Tapie fait l'objet se retourne à son avantage, ce qui est exprimé d'ailleurs dans plusieurs articles de la presse de ce soir, et que on voudrait assurer à Tapie à la fois une espèce d'immunité morale dans le système social et une espèce d'impunité judiciaire qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Alors, beaucoup d'auditeurs disent, oui, finalement, c'est bien fait ce qui arrive à Tapie, ça lui pendait au nez et tout. C'est une affaire entendue. Je précise, pour que ça soit bien clair, que je trouve vois aucun scandale à ce que M. Tapie soit convoqué chez le juge d'instruction et soit entendu sur les accusations qui pèsent contre lui et soit inculpé si le juge d'instruction considère, ou mis en examen, si le juge d'instruction considère que c'est utile à l'avance de l'enquête. Mais ce que je trouve tout à fait déplacé, tout à fait inutile, c'est qu'on envoie, comme pour arrêter un malfaiteur de grand chemin, dangereux, qu'on envoie des policiers qui arrivent dans plusieurs voitures, qui prennent d'assaut la maison et qui emmènent Monsieur Tapie pour un peu avec les menottes au poignet. À mon avis, ça ressemble très exactement à ce qu'on appelle une provocation politique. D'ailleurs, il s'en tirera probablement très très bien. Vous verrez. Prenez note de ce que je vous dis. D'ailleurs, il y en a un qui s'en est déjà tiré très bien. C'est Monsieur Noir, qui est une espèce de Tapie à sa manière aussi. Monsieur Noir vient pourtant d'être mis en examen pour abus de confiance à la suite du versement de subventions par la municipalité de Lyon à des groupes politiques du conseil municipal. Et dans un arrêt du 20 juin, le Conseil d'État a confirmé l'annulation d'une délibération du conseil municipal du 16 décembre 91, au cours de laquelle avait été attribué 3 196 000 francs au groupe politique constitué en son sein. Ces subventions, pour l'usage desquelles le maire de la ville, M. Michel Noir, avait été mis en examen pour abus de confiance, sont déclarées comme ne présentant aucun caractère d'utilité communale et donc illégales au regard de l'article 121-26 du Code des communes. Alors, pour cette affaire, M. Noir avait été mis en examen pour abus de confiance le 19 mars par le juge Corroy dans le cadre d'une information judiciaire sur ses comptes bancaires et visant notamment d'éventuels détournements de fonds publics d'origine municipale par le biais de virements à des associations noiristes, J'aime Lyon, Nouvelle Démocratie et Opinion, etc. Or, pourquoi je vous parle de cette histoire? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que M. Noir a été inculpé, plutôt mis en examen, et sous contrôle judiciaire, sous réserve du versement d'une caution qu'il n'a jamais versé. Il a fait appel en ce qui concerne le montant de cette caution, elle a été baissée et il n'a tout de même pas versé la caution réduite. Et il est toujours en liberté. Là, c'est la démonstration aveuglante que M. Noir bénéficie d'un statut de protection particulière, puisque n'importe quel citoyen dans sa situation aurait été mis en détention provisoire pour défaut de versement de la caution exigée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette affaire pour laquelle M. Noir est en examen en ce moment, ces accusations qui sont aujourd'hui portées par le juge Corroy à l'encontre de M. Noir, elles étaient dans Minute en 91. Elles ont fait l'objet en 92, dans Minute, d'un papier, d'une série de papiers, pour lesquels M. Noir avait porté plainte en diffamation. Et pour lesquels Minute avait été lourdement, très lourdement condamné à de fortes amendes et à de forts dommages et intérêts. Et c'est une condamnation d'ailleurs qui à l'époque avait mis en danger la survie financière du journal. Étant donné que le journal à l'époque était dirigé par Serge Martinez avait fait le nécessaire pour que l'équilibre financier de Minute soit restauré, équilibre qui avait été détruit par les condamnations infligées sur plainte de M. Noir, c'est-à-dire que Serge Martinez avait, comme on dit dans ces circonstances-là, remis de l'argent au pot. Mais imaginez qu'il n'ait pas été là pour le faire, Minute disparaissait. Ce qui veut dire que M. Noir, la justice, en donnant raison à M. Noir, aurait fait disparaître un journal, aurait tué un journal, alors qu'aujourd'hui, il apparaît que les accusations portées par Minute étaient parfaitement fondées. Ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que il est évident que, quelles que soient les éventuelles condamnations à venir de M. Noir dans cette affaire, il ne sera jamais condamné à rendre les dommages et intérêts qu'il avait perçus, et aucun juge ne sera condamné à restituer les amendes qui avaient été infligées au journal Minute. Beaucoup d'auditeurs et beaucoup de lecteurs des journaux reprochent parfois à la presse nationale d'être trop dure et de prendre des risques juridiques importants, et ensuite de faire appel à l'aide de ses lecteurs pour se sauver des situations dans lesquelles elle se met du fait des procès intentés. Je vous rappelle que, par exemple, le choc du mois a été littéralement tué par l'avalanche des procès, que un journal comme Rivarol est un journal qui est en danger de mort permanent à cause des procès qui lui sont faits, des amendes qui lui sont infligées, et que donc, quand on dit que la censure n'existe pas en France, c'est vrai pour la censure préalable, mais ça n'est pas vrai pour la censure postérieure, puisqu'une fois qu'un journal est sorti, on peut le tuer, on peut lui infliger la peine de mort pour un délit. Ça a failli être le cas de Minute dans l'affaire Noire, et maintenant on s'aperçoit que Minute n'était pas coupable, puisque Minute n'avait fait que dire la vérité sur les manipulations financières illégales, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État, de M. Noir. Ça, c'est une constante qu'il faut avoir présente à l'esprit quand on s'interroge sur le bien fondé de certains articles. Parce que les journaux n'ont pas toujours la possibilité de faire ce que fait M. Clinton, dont je viens d'apprendre en lisant la presse qu'il avait eu une excellente idée. Vous savez que M. Clinton fait l'objet de plusieurs procès. M. Clinton, c'est le président des USA. Et il fait l'objet de plusieurs affaires juridiques, judiciaires, pardon, notamment en ce qui concerne l'affaire de Whitewater, c'est-à-dire le nom de cette société immobilière de l'Arkansas dans laquelle les Clinton avaient investi de l'argent et dans laquelle ils ont entraîné dans la faillite, par laquelle des centaines d'épargnants ont été entraînés à la faillite, et une autre affaire qui est l'affaire de harcèlement intenté contre le président des États-Unis par une ancienne fonctionnaire de l'Arkansas. Donc ces procès coûtent à l'heure actuelle, on est aux États-Unis, il faut le rappeler, à Clinton, entre 1 et 2 millions de dollars par an. Alors qu'est-ce qu'il a fait, M. Clinton ? Eh bien, il a créé une fondation qui est destinée à recueillir des fonds pour permettre de faire face aux frais de justice. Et c'est-à-dire que M. Clinton dit aux Américains, aidez-moi à me dépatouiller des sales affaires dans lesquelles je suis, donnez-moi de l'argent, envoyez-moi, alors les entreprises, pardon, les personnes morales n'ont pas le droit de cotiser, mais les personnes privées peuvent apporter leurs dons, le plafond étant légalement fixé à 1000 dollars par personne. Alors je vous dirais que ça m'inspire quand même quelques réflexions, et il n'est pas absolument exclu que dans les semaines à venir, je vous annonce la création d'une fondation pour aider Serge de Beketch à payer ses amendes et ses frais de justice. Après tout, je ne vois pas pourquoi ce qui est bon pour le président des États-Unis ne serait pas bon pour moi. Peut-être d'ailleurs, M. Tapie fera-t-il la même chose. C'est une éventualité qu'on ne peut pas exclure. Et surtout, s'il vous demande de l'argent, n'hésitez pas, vous savez qu'il sera bien placé cet argent. Il y a un autre sujet dans l'actualité. Vous savez que j'aime bien les sujets qui font rire. Alors, il y a des informations. Aujourd'hui, il y a l'information la plus drôle de l'année, probablement, dans Libération. Libération nous dit « Le statut de réfugié politique n'aurait été accordé qu'à deux personnes cette année. » Moi, je ne sais pas ce que font les journalistes de Libération. Apparemment, ils sortent pas souvent de leur bureau. Parce que s'il n'y a pas plus de deux personnes qui ont eu le statut de réfugié politique cette année en France, et deux Algériens en l'occurrence, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'immigrés clandestins dans ce pays. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faudrait peut-être s'en occuper un petit peu. Je parle de ça parce que les chiffres, j'en ai déjà parlé à ce micro, les chiffres officieux de l'immigration en provenance, de l'immigration refuge, en provenance d'Algérie à l'heure actuelle, sont totalement disproportionnés à ce que raconte Libération, puisque on pense qu'il y a environ 1000 Algériens chaque jour qui arrivent en France pour s'installer, par peur du fisc ou par peur du gouvernement algérien. On ne sait pas trop d'ailleurs de qui ils ont peur. Moi je crois qu'ils ont surtout peur, comme le dit d'ailleurs Libération, d'un genre de vie qui ne correspond pas à celui qu'ils pourraient espérer avoir, c'est-à-dire qu'effectivement, quand ils sont ingénieurs à Alger, c'est beaucoup moins intéressant que quand ils sont ingénieurs à Paris. Le genre de vie n'est pas tout à fait le même. Donc, de plus en plus, les réfugiés algériens affluent, de plus en plus, la presse nous explique, la télévision et la radio nous expliquent qu'il faut les accueillir, il faut préparer les Français à l'accueil de centaines de milliers de réfugiés algériens, disent maintenant ouvertement, aussi bien des gens de l'opposition que des gens proches du gouvernement. Et parallèlement à ça, Libération dit que c'est vraiment quelque chose de qu'il faut développer, puisqu'il n'y a que deux réfugiés algériens qui ont obtenu le statut de réfugié dans notre pays. J'ajoute d'ailleurs que les mêmes qui demandent le statut de réfugié en France passent leur temps, il suffit de lire Libération, Globe et des journaux comme ça, à expliquer que la France est un pays abominablement raciste dans lequel les conditions de vie qui leur sont faites sont scandaleuses, si bien qu'on finit par se demander quelle espèce de fureur pousse ces gens à vouloir à tout prix venir dans un pays où ils savent qu'on va les faire vivre dans des taudis et qu'on va tenter de les assassiner à coups de revolver chaque fois qu'ils vont avoir le courage de mettre les pieds dehors. Moi, je suis peut-être un esprit un peu simple et primaire, mais je dois dire que si... je ne serais pas positivement enchanté à l'idée d'aller m'installer au Rwanda. Or, il faut savoir que pour les Algériens, étant donné la propagande que fait la presse algérienne et que fait la presse de gauche en France, la France, pour un Algérien, à l'heure actuelle, c'est à peu près aussi sûr que le Rwanda, apparemment. Eh bien, ils viennent quand même, vous voyez. Alors, on peut s'interroger sur leur motivation profonde. Voilà ce que je voulais dire à propos de la presse en général, des informations qui paraissent dans la presse en général. On peut peut-être donner la parole aux auditeurs.
Oui, aux auditeurs, oui, c'est ça.
Alors, un auditeur nous fait remarquer que la BBC vient de faire son entrée sur la bande FM, sur la fréquence 106, quelque chose, et nous dit qu'il n'y a pas de place pour les radios françaises, mais il semble qu'il y en ait pour les radios étrangères. Un auditeur de Chartres, une auditrice de Chartres, se dit certaine que les sondages sont mensongers, que ces mensonges sont bien calculés. Ça, c'est pour l'histoire des sondages sur les radios libres. Un auditeur dit est-ce que les affaires comme Tapie ou Léotard, l'expédition Léotard au Rwanda ne sont pas destinées à amuser la galerie pour qu'on ne parle pas d'autres affaires? Ça n'est peut-être pas faux, mais je ne crois pas qu'il faut se laisser aller à ce genre de paranoïa. Parce que finalement, chaque fois qu'une affaire sort, on est fondé à dire que c'est pour étouffer autre chose. Ce qui est certain, c'est que par exemple, j'ai fait là-dessus un papier la semaine dernière ou la décade dernière, par exemple, le discours à G continue sur le racisme est un discours qui sert à détourner l'opinion publique des problèmes réels. On nous dit les Français sont racistes, on nous répète ça à longueur de journée, et en fait, pendant qu'ils s'occupent du racisme ou du prétendu racisme, les Français ne s'occupent pas d'autres sujets qui sont beaucoup plus intéressants sans doute. En matière de procédure pénale, ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. S'il n'y a pas eu de levée de l'immunité parlementaire et ensuite de prise de corps, Tapie pouvait narguer encore la justice pendant des années, nous dit un auditeur. Oui, c'est certain, mais je pense que si le juge avait fait l'économie de la prise de corps et avait simplement convoqué M. Tapie, étant donné qu'il s'est rendu jusqu'à présent à toutes les convocations, je ne vois pas pourquoi il ne se serait pas rendu à celle-là. Est-il exact que M. Tapie a un casier judiciaire propre, car pendant le débat avec Giscard, il a affirmé ceci? Oui, c'est parfaitement exact. Il a un casier judiciaire, et ce casier judiciaire est propre. C'est-à-dire qu'en France, il y a un système, d'abord le casier judiciaire comprend plusieurs volets, un volet qui est destiné à la consultation de n'importe qui, un volet qui est destiné à la consultation des services spécialisés, et l'un n'est pas toujours le reflet fidèle de l'autre, et notamment les condamnations amnistiées ne figurent pas sur le premier volet. Donc en ce sens, on peut dire que le casier judiciaire de M. Tapie est propre, ainsi qu'il l'a dit lui-même, il est aussi propre que quelque chose d'extrêmement sale qui a été lavé. Voilà, c'est ce qu'on peut expliquer. Une auditrice nous dit « J'ai entre les mains Nice Matin du mercredi 29 juin, c'est-à-dire ce jour, sur lequel je lis qu'un professeur de polytechnique, M. Mohamed Rechrech, 31 ans, dirigeait un réseau de drogue, aidé par un couple d'Algériens interdits de séjour en France et accompagnés de leurs enfants. » Ben, au moins, ça, c'est un mec qui travaille. On peut pas
non plus faire des reproches à tout le monde. Professeur à Polytechnique, je ne sais pas combien gagne un professeur à Polytechnique, mais apparemment, il faut qu'il mette du beurre dans les épinards. Voilà, un auditeur nous dit « Monsieur Pasqua n'accepte pas qu'il y ait un autre parti de droite que le RPR, c'est pourquoi il a lancé le parti de Monsieur De Villiers afin de détruire le Front National ». Ça, c'est une analyse qui est souvent proférée, que je ne partage pas du tout. Je crois pas du tout que M. Pasqua ait lancé M. De Villiers. Je crois que M. De Villiers s'est lancé tout seul. Je crois que M. Pasqua s'est empressé ensuite, quand il a vu que ça commençait à marcher, de sauter dans le train en marche, comme il le fait toujours, en gardant d'ailleurs un pied sur le quai. Et avec ce jeu-là, un jour ou l'autre, le respectable, il ne faut jamais oublier de dire le respectable M. Pasqua, parce que M. Pasqua a des admirateurs qui nous écoutent. Donc le respectable M. Pasqua va faire ce qu'on appelle la culbute, c'est-à-dire qu'il va se retrouver avec son gros popotin par-dessus la tête. Et ça sera assez rigolo. Mais pour l'instant, effectivement, M. Pasqua fait un calcul très simple, ce que je me suis permis d'expliquer dans le Libre Journal. M. Pasqua se dit que s'il arrive à diviser suffisamment la droite, avec un peu de chance, il y aura trois candidats au moins de droite au premier tour, et que lui, M. Pasqua, étant donné sa stature, représentera un appui pour le deuxième tour déterminant. Et que le candidat de la droite au deuxième tour sera donc choisi par M. Pasqua lui-même. M. Pasqua pense qu'il est un faiseur de rois. Et donc il a créé, il a appuyé plus exactement le mouvement de M. De Villiers en se disant qu'un jour ou l'autre il arriverait à piper ses voix. Mais je crois que M. Pasqua, une fois de plus, se trompe. M. Pasqua se trompe systématiquement depuis des années. Et je dois dire que je suis abasourdi de voir que M. Pasqua peut encore passer dans nos milieux pour quelqu'un de respectable, d'intéressant et de proche. M. Pasqua est un adversaire totalement fanatique de tout ce que nous représentons. Et il faut dire une chose, c'est que chaque fois qu'il a monté une opération, Dieu merci, elle lui a pété au nez. S'il avait monté effectivement, ce que je ne crois pas personnellement, mais s'il avait monté l'opération Villiers contre le Front National, eh bien, il aurait complètement raté son coup, puisque le Front National, je le répète, n'a pratiquement pas perdu de voix à cause de M. De Villiers. Le seul résultat de cette opération, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai tant qu'il faudra, a été de faire doubler le nombre des voix qui se sont portées sur des mouvements ou sur des personnes qui représentent la tradition et la défense des valeurs françaises. Voilà. Avant, il y avait M. Le Pen. Maintenant, il y a M. Le Pen et M. De Villiers. Avant, Le Pen faisait 12% ou 11% selon les consultations, et voire jusqu'à presque 15% quand il s'agissait de présidentielle. Eh bien, cette fois-ci, M. Le Pen et le Front National ont fait 10,5%, presque 11%, et M. De Villiers a fait 12%. Donc, c'est pas difficile de calculer que M. De Villiers n'a pas pris du tout de voix au Front National, mais qu'il a bel et bien pris des voix au RPR et à l'UDF. Et par conséquent, si M. Pasqua a monté cette opération, eh bien, une fois de plus, M. Pasqua a fait un mauvais pastis, ce qui n'est pas du tout la première fois de sa vie. Une dame nous dit connaître quelqu'un qui a voté pour Tapie à cause du fait que ce pauvre homme était agressé et pris à partie. Oui, c'est un peu dans le fil de ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, beaucoup de gens ont agi comme ça, ont voté pour Tapie, comme dans le Guignol, on applaudit Guignol quand il tape sur les gendarmes. Cela dit, quand on est cambriolé chez soi, on applaudit les gendarmes quand ils arrêtent le cambrioleur. Il faut bien comprendre que dans le comportement des citoyens, des gens, il y a des attitudes contradictoires. Il y a les attitudes qu'on a à la télévision. Je regardais hier le film Le Prince et le Pauvre, qui a été tiré d'un roman extrêmement célèbre de Bernard Shaw. Et effectivement, quand le jeune voleur, au début du film, essaye de fuir la maréchaussée, on est avec lui, alors qu'il vient de voler la bourse d'un bourgeois. Mais si c'est votre portefeuille qui vole, vous n'êtes plus du tout avec le voleur, vous êtes avec le gendarme. Donc, le drame de Tapie, ou plutôt le paradoxe de Tapie, c'est que les gens croient qu'il s'agit qu'ils sont en face d'un film, alors qu'ils sont en face de la réalité, et que M. Tapie, dans cette affaire, n'a pas à être considéré avec bienveillance ou avec compassion, puisqu'il s'est mis lui-même dans la situation où il est. Aussi bien la remarque de notre auditeur que je vais lire maintenant ne vaut-elle pas. Il dit à propos de M. Tapie, Beckett a rejoint le cœur de ceux qui crient à la provocation à l'occasion de l'interprétation matinale de ce matin. Or, les infos sont encore insuffisamment connues, étant donné la réserve naturelle du juge d'instruction, mais il suffit de se reporter au journal de 13h sur TF1 pour apprendre que M. Tapie aurait été mis par le juge sous écoute téléphonique, ce qui lui aurait permis de penser que M. Tapie était susceptible de partir en vacances à l'étranger, peut-être au Maroc, jusqu'à la date du 19 juillet, faisant ainsi de la levée d'immunité parlementaire en France quelque chose de caduque, puisque, à partir de cette date du 19 juillet, il aurait bénéficié de l'immunité européenne. C'est très possible. Cela dit, je reste absolument convaincu que Monsieur Tapie aurait parfaitement pu être déféré devant le juge d'instruction sans faire appel à une escouade de policiers. On ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il s'agit d'une opération destinée à augmenter ce qu'on appelle l'effet de compassion et qui amène l'auditrice que j'évoquais tout à l'heure à dire « ce pauvre homme est tellement agressé et pris à partie que je vais voter pour lui ». Un auditeur dit « il faut proscrire l'immunité parlementaire par voie de référendum. Je trouve inadmissible que des Mitterrand, Longuet, Noir, Emmanuelli ne soient pas impliqués dans des affaires alors que M. Dupont, s'il avait commis les mêmes forfaits, serait jugé, condamné et puni et ruiné ». Oui, je suis tout à fait d'accord, mais ça n'est pas en supprimant l'immunité parlementaire qu'on réglera ce problème, c'est en supprimant la démocratie. C'est la démocratie qui rend ces choses-là possibles, c'est la démocratie parlementaire, et les dispositions législatives ou les dispositions réglementaires qui ont été prises par les députés à leur propre avantage. Il ne faut pas oublier que ce sont les députés eux-mêmes qui ont voté la loi instituant l'immunité parlementaire. Ce sont les députés qui ont décidé qu'il n'était pas soumis à la loi commune. Et donc c'est bien la preuve que ce système parlementaire, de démocratie parlementaire est un système pourri. Parce que demain, les députés pourront aussi bien voter une loi en disant que les députés ont le droit de rentrer dans n'importe quelle banque et de se servir dans la caisse pour payer leurs vacances. Ça deviendra une loi. Et plus personne ne pourra en discuter. Ils n'ont pas encore osé le faire, c'est vrai. Mais je vous rappelle quand même qu'ils ont eu le culot incroyable de voter la loi portant amnistie de délits qu'ils avaient commis, c'est-à-dire une loi rétroactive qui exonérait de toute punition les députés voleurs, les députés escrocs et les députés prébendiers. Donc, je crois que ça, c'est une mise en cause. Ce qu'il faut faire, c'est certainement pas une mise en cause de l'immunité parlementaire, c'est une mise en cause du système démocratique lui-même qui est nécessaire. Et je crois que cette mise en cause est rendue de plus en plus nécessaire à mesure que les affaires éclatent. Quand on voit, par exemple, l'affaire Boucheron, et quand on lit le livre de Jean Montaldo, qui, je dois dire, m'a intéressé, mais me paraît très, très, très en deçà de la réalité, et surtout de tout ce qu'on a écrit dans le Crapouillot, quand j'ai fait le Crapouillot avec Vincent Acker et Jean Roberto. Je dois dire que toutes les affaires qui sont évoquées par Jean Montaldo étaient dans ce Crapouillot. Et je suis un peu étonné, d'ailleurs, de constater que ce Crapouillot, qui a été vendu quand même à 100 000 exemplaires, n'a jamais été cité nulle part, pas plus d'ailleurs par Montaldo que par les autres, alors que la plupart des informations qui figurent dans les journaux, dans les livres, que ce soit « Le Rouge et le Noir », ou les livres de Montaldo figuraient déjà dans ce Crapouillot. Alors, je profite de ça pour une parenthèse. C'est que, évidemment, c'est très très bien de dénoncer les épouvantables turpitudes du président de la République et de sa bande. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que si on le fait en ordre dispersé comme ça, c'est-à-dire si on passe son temps à prétendre qu'on est le premier à avoir découvert certaines choses, sans jamais faire état des travaux des autres, on n'avancera jamais. La vérité, c'est qu'il existe maintenant, sur le président de la République, un dossier qui est quelque chose de formidablement accablant, mais qu'il faut réunir les éléments de ce dossier d'une façon, je dirais, œcuménique. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc je vous annonce que prochainement, probablement au moment des BBR, je vais publier un livre dans lequel il y aura tout ce que je sais, moi, sur le président de la République, sur François Mitterrand. Et ceux qui ont aimé les bouquins de Montaldo devraient aimer celui-là. Ça pourrait peut-être leur faire découvrir certaines choses pas totalement inintéressantes. Un auditeur dit « Je ne comprends pas la remarque de M. de Bekech sur l'arrestation de M. Tapie. Pourquoi douter du sérieux de l'affaire ?» Je ne doute pas du tout du sérieux de l'affaire. Je répète que je doute du bien fondé d'une arrestation spectaculaire comme celle-là. Moi, quand la politique fait du cinéma, je n'y crois pas. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Eh bien, en politique, c'est valable aussi. Ce genre de raffut autour de l'arrestation de M. Tapie, à grand renfort de déploiement policier, c'est pas cohérent, ça n'est pas digne, ça n'a pas la dignité que devrait commander l'institution judiciaire. Et d'ailleurs, un auditeur nous dit, oui, sûrement, l'arrestation de M. Tapie est un coup bidon. Hier soir, il était à l'émission de Christine Ockrent pour pleurer sur ses problèmes. Alors, nous dit cette auditrice, alors qu'un simple voleur va en prison pour 5000 francs volés. Oui, c'est pas absolument certain. Je suis pas convaincu qu'un simple voleur aille en prison. Si vous voulez en savoir plus sur cette question, vous pouvez lire le numéro de cette semaine de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles publie une enquête, ça n'est pas l'habitude de cet hebdomadaire, mais pour une fois, publie une enquête de choses vues sur la police de la SNCF et la police du métro, et dans laquelle les policiers qui assurent l'ordre dans le métro et dans les trains disent à longueur de page, on arrête sans arrêt les mêmes gens, et ils sont sans arrêt remis en liberté, quelques heures plus tard, par la justice. Voilà. Une auditrice dit, vous allez nous saouler pendant combien de temps avec Tapie ? On en a une overdose, ne vous mêlez pas de cette chienlit. Oui, chère madame, c'est vrai, ça n'est pas moi qui me mêle de cette chienlit qui se mêle de ma vie. C'est pas moi qui ai fait Tapie député européen et député français. C'est 12% des lecteurs. Et par conséquent, ce monsieur représente un 500e, en gros, du pouvoir législatif en France. Avec sa bande, il représente peut-être un 50e. Ou un dixième, je ne sais pas, et c'est beaucoup trop à mon sens, et il faut en parler pour se défendre contre eux. Voilà, on va écouter un petit peu de musique, et on va recevoir maintenant Valérie Delahaye, qui va nous expliquer comment ce pays dans lequel on fait arrêter les chefs d'entreprise au petit matin, comment ce pays s'occupe des chefs d'entreprise qui lancent des entreprises. Barlet a décidé de nous faire un concert de Limonaire ce soir. C'est pas lui qui joue, hein, je précise. C'est un disque qu'il a apporté. Un rectificatif, j'ai dit naturellement, au moment où je l'ai dit, j'ai dit, ça y est, je viens de dire une bêtise, c'est Mark Twain, évidemment, qui a écrit Le Prince et le Pauvre, c'est pas Georges Bernard Shaw, c'est vraiment le lapsus le plus idiot de la soirée. Et pourtant, il y en a eu d'autres. Une auditrice nous signale que la presse annonce que tous les sondages concernant les partis font apparaître une baisse, sauf pour le Front National, qui reste à 15%, c'est un sondage dont les résultats ont été donnés au journal de 18h par RTL. Vous voyez, donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Alors, toujours à propos de sondage, un auditeur dit « J'ai été appelé par l'organisme Médiamétrie qui faisait le sondage sur les radios, et ils m'ont demandé ma profession, j'ai répondu que j'étais cadre aéronautique, la réponse a été que je faisais partie d'un quota dépassé, et on m'a raccroché au nez. » C'est élégant, en plus. Et puis un appel assez émouvant, « Je suis Harki et je vous écoute. J'espère que les Français n'auront pas la mémoire courte sur les événements à venir. Mes grands-parents sont morts pour la France et je ne sais plus sur quel sang pleurer, celui d'hier ou celui de demain. » Beau ça. Ma chère Valérie, je voudrais que vous nous racontiez votre aventure parce qu'elle me paraît tout à fait exemplaire de la réalité quand on la frotte à la fiction médiatique. Alors, vous étiez salarié ?
Or donc, j'étais salariée jusqu'au jour où j'ai été licenciée pour raisons économiques. J'ai été inscrite au chômage et ayant une certaine conscience des devoirs du citoyen, j'ai tout d'un coup décidé de créer une entreprise. Comme j'étais attachée de presse et que j'avais envie de me lancer dans la restauration, j'ai fait une espèce de stage. J'ai pris l'établissement de Jean Nouriga, le Père Tranquille, 30 avenue du Maine, en gérance. Et là, tout le monde m'a dit que j'avais droit, en tant que créateur d'entreprise, à une aide allouée par la Chambre de commerce de Paris, une aide de 70 000 francs. Je suis allée à la Chambre de commerce et on m'a dit « Ah non, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes gérante, vous ne créez pas d'entreprise. Mais lorsque vous créerez une entreprise, vous aurez le droit. » Je suis repartie en me disant que c'était une sorte d'économie parce que ce que je n'avais pas l'année dernière, je l'aurai l'année suivante. Cette année, j'ai créé mon entreprise. Tourner à la chambre de commerce.
Vous avez créé votre entreprise, qui est un restaurant.
Un autre restaurant, 21 rue Campagne Première, à l'enseigne de la mer agitée. J'ai bloqué pour ce faire une matinée en me disant que toutes les formalités allaient être très longues. Je suis allée pour m'inscrire au registre du commerce et en sortant de là, j'ai dit, s'il vous plaît madame, est-ce que vous pouvez m'indiquer le bureau où je dois m'adresser pour la prime? Quelle prime? Les 70 000 francs des créateurs d'entreprise. « Ah, mais vous ne créez pas d'entreprise parce que vous avez déjà été inscrite au registre du commerce. » Je dis, c'est pas... on m'a dit l'année dernière. « Ah mais non, parce que vous reprenez le même numéro que l'année dernière. »« Je ne suis pas accrochée à ce numéro-là, madame. »« Ah mais c'est pas grave, vous ne pouvez pas. »« On va appeler la NPE. » On appelle la NPE. Et là, la dame de la NPE demande si, dans le laps de temps qui était entre le moment où j'ai quitté le Père Tranquille et le moment où je me suis installée à la mer agitée, j'ai été inscrite au chômage. J'ai pas eu l'idée, pour un mois et demi, d'aller encombrer les statistiques du chômage. Comme je ne l'ai pas fait, je n'ai pas droit non plus à l'aide cette année. Alors, comme je n'envisage pas de créer une entreprise tous les ans, comme je n'envisage pas non plus de tromper l'administration en créant une entreprise sous un autre nom, sous une SARL, sous une SA, je sais pas quoi, je n'aurais pas droit à cette aide-là. Alors, quand j'entends tous les jours dire qu'on aide les petits commerçants, qu'on aide à la création d'entreprise, qu'on aide les chômeurs, je m'aperçois que j'étais chômeur. Pour ne plus embouteiller les statistiques, je suis plus chômeur et qu'on ne m'a pas aidé.
Oui, c'est ça. C'est quand même une histoire assez extraordinaire. La première fois, vous n'avez pas le droit à l'aide à l'entreprise parce que vous prenez une affaire en gérance.
Voilà.
Alors que vous êtes chômeuse, vous êtes demandeur d'emploi, comme on dit maintenant.
Oui, et pleine de bonne volonté parce que je me lance dans quelque chose où, a priori, je n'avais pas les bases nécessaires.
Et vous conservez un emploi, d'ailleurs, entre parenthèses, en reprenant cette affaire, vous sauvez un emploi, qui est l'emploi de l'employé de Jean Nouriga. Bon. Donc là, on vous dit, vous ne pouvez pas avoir l'aide à l'entreprise parce que c'est une reprise de gérance. Ensuite, vous quittez cette société, vous en créez une, mais entre le moment où vous la quittez et le moment où vous la créez, vous commettez l'erreur formidable de ne pas vouloir surcharger les statistiques du chômage. Donc vous ne vous inscrivez pas à la NPE.
L'idée m'a même pas effleuré, ouais, je dois reconnaître.
Moyennant quoi, après on vous dit non, vous n'avez pas droit à l'aide à l'entreprise parce que vous n'êtes pas une créatrice d'entreprise, étant donné que vous aviez déjà une entreprise avant en gérance et que maintenant vous vous contentez de la mettre à votre nom, c'est un peu ça l'histoire.
C'est une histoire de numéro.
Et comme entre-temps vous n'avez pas pris d'inscription à la NPE, vous n'avez droit à rien. Alors, c'est une toute petite anecdote, mais c'est une anecdote qui se reproduit à des milliers d'exemplaires chaque jour partout en France. Et évidemment, tout ce qu'on nous raconte, et je peux en témoigner avec le Libre Journal, tout ce qu'on nous raconte sur les aides à la création d'entreprises, c'est totalement faux.
L'URSSAF, c'est pareil. Hein. Quand on crée une entreprise, on est exonéré d'URSSAF, mais en fait, on n'est pas exonéré.
On n'est pas exonéré du tout, puisque la première chose qu'on reçoit quand on crée une entreprise, c'est les factures de l'URSSAF, c'est les déclarations de TVA qu'il faut verser de pratiquement une demi-heure après avoir créé l'entreprise. Il faut déjà envoyer de l'argent à l'URSSAF et à la TVA. Et bon, dans ces conditions-là, il n'est pas surprenant du tout que les choses se passent de cette façon. Bon, cela dit, malgré cette mauvaise volonté de l'administration, vous avez l'intention de chercher d'autres aides ?
Oui, parce qu'après la mauvaise volonté de l'administration, je suis tombée sur une mauvaise volonté de l'administration bancaire, cette fois. Ouais. Alors là, c'est une autre paire de manches. Comme je n'ai pas de CAP de cuisine, comme je n'ai pas d'expérience, alors que l'année dernière, j'ai quand même, sinon fait mes preuves, j'ai réussi à m'en sortir presque honorablement. Là, maintenant, je cherche une banque et c'est toute une histoire parce que les banques sont particulièrement frileuses. On voit partout des enseignes, je ne sais plus quelle banque fait une publicité en disant que chez elle, c'est toujours oui. Ben, moi, partout où je rentre, c'est non. Non, on ne peut pas. Non, vous êtes trop vieille. Non, vous n'avez pas assez de biens personnels. Non, c'est toujours non. Vous n'avez pas assez de garantie. Alors, je sais bien, je ne suis pas Monsieur Tapie. Mais si on n'est pas escroc, j'ai l'impression que c'est très difficile.
Or, vous avez créé votre entreprise, vous avez acheté les murs de l'entreprise, je crois.
Oui, j'ai acheté donc, les murs et j'ai créé une entreprise puisque le restaurant que j'occupe actuellement était fermé depuis 18 mois. Donc, j'ai même créé le fonds. Ouais. Recréé le fonds.
Et alors, quel que soit l'administration ou l'institution vers laquelle vous tournez, c'est
une victime d'une incompréhension totale.
Mais vous croyez que vous avez l'impression que c'est un cas unique ou vous avez l'impression que c'est pratiquement des automatismes
Je crois que c'est tout. Je crois qu'à moins d'avoir soi-même 3 millions et de vouloir en emprunter 30, quand vous voulez emprunter une somme qui, même si pour moi elle est importante, paraît ridicule à un banquier, on ne s'occupe pas de vous. Vous êtes une goutte d'eau dans la mer.
La mer agitée.
Agitée, ben voilà, c'était mieux que je cherchais.
Alors, cela dit, bon, on peut peut-être après toutes ces. Voilà, une auditrice dit les aides à l'embauche et aux entreprises sont bidons. C'est exactement ça. Il s'agit de dispositions réglementaires qui sont prises, qui sont annoncées à grand renfort à grand retentissement médiatique, et puis quand on essaye de les obtenir, on s'aperçoit que ça n'existe tout simplement pas. Il manque toujours le formulaire 48 bis rectifié 34 pour obtenir l'aide en question.
J'ai été concerné la semaine dernière, où, il y a peu de temps, j'ai une amie qui est venue avec quelqu'un qui travaille au cabinet de Monsieur Madelin. Je me suis dit, ça y est, me voilà sauvée. J'ai exposé mon problème et là on m'a dit, mais tu peux pas savoir. Il s'en fout des petites entreprises, il se fout des commerçants. Et là, une fois de plus, j'ai été déçu.
Ouais. Bon, cela dit, est-ce que les clients marquent la même indifférence à la mer agitée que les banques
sont très
et l'administration?
Mais malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé non plus eux-mêmes de banques qui puissent m'aider. Alors, je fais des appels, je leur propose des marchés très intéressants, de me prêter 10 000 francs et d'avoir 12 000 francs de repas. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé preneur.
Bon, alors on va indiquer l'adresse quand même du restaurant.
Oui, c'est 21 rue Campagne Première, dans le 14e arrondissement. Je dois dire en passant que pour les auditeurs qui n'auraient pas la possibilité d'envoyer des timbres à Serge de Becquetch pour acheter son journal, j'ai un présentoir où à chaque tous les 10 jours je vends le journal de Serge, ainsi que les cassettes du Caronjois Saint-Denis, qui se produit dans l'établissement tous les premiers mercredis du mois. Avec un peu de chance, pendant la période de vacances, ils viendront peut-être un peu plus souvent.
Ah bon, je croyais que tu allais dire un peu moins souvent.
Non, pas du tout, ils sont venus pour la fête de la musique.
Non, c'est très bien.
Et contrairement à ce qui s'est passé dans le reste de Paris, où il y a eu plusieurs morts, plusieurs blessés, ici, là-bas, ça s'est très bien passé. On a eu une centaine de personnes. Bon enfant.
Bien, l'adresse est 21 rue Campagne Première.
Dans le 14e.
J'espère qu'il y a un traitement spécial pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
On fera bien quelque chose.
C'est bien. Merci. Encore des appels d'auditeurs, il y en a eu beaucoup ce soir. Un auditeur propose que les Harkis portent un badge de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est une très 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 bonne idée, vous voyez. Comme dirait quelqu'un, ça risquerait de nous rappeler les heures les plus sombres. Non, je crois que c'est pas utile du tout. Les Harkis, ils ont une carte d'identité française, et par conséquent, ils sont des citoyens français, point à la ligne. On peut pas se permettre... il se trouve qu'on est dans un pays où beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français ont des têtes d'étrangers. C'est comme ça. Alors si on demande à ces gens qui ont des têtes d'étrangers de porter des badges pour qu'ils sont français, je me demande si on va pas s'orienter vers quelque chose d'extrêmement dangereux, vous voyez. Par exemple, si vous prenez des gens qui ont des têtes d'Africains, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait porter, par exemple, un petit drapeau bleu, blanc, rouge à la boutonnière pour montrer qu'on est un Antillais, un Guadeloupéen, un Guadeloupé 2, un Mahorais. Et puis les autres, par conséquent, seraient immédiatement repérés comme étrangers. Je ne suis pas absolument certain que ce soit une très bonne idée. Je vois un danger là-dedans. Parce qu'en même temps, il y a tous ceux qui ont des têtes de Français et qui ne le sont pas. À qui faudrait demander de porter également un badge qui prouve qu'ils ne sont pas français. Non, je suis désolé, cher auditeur, je n'ai pas envie de lancer une campagne de ce genre. Mais maintenant, je me trompe peut-être. Je crois que c'est tout. Non, on a d'autres appels qui sont...
Non, c'est toujours sur tapis.
C'est toujours sur tapis. Vous voyez, je dis ça à l'auditrice qui tout à l'heure disait, vous vous enlisez dans le cloaque tapis, mais il faut bien reconnaître que la plupart des appels portent sur cette affaire et que les Français en général sont tout à fait passionnés parce que cet homme est un roman de Balzac vivant. Il faut bien reconnaître que c'est une histoire extraordinaire. Alors il y a une auditrice qui nous dit qu'elle habite le 17e arrondissement et que devant un magasin de l'avenue des Ternes, tous les après-midi, il y a deux Noirs qui ont des papiers en main et qui demandent aux passants de signer contre le racisme. Et les gens qui refusent de signer, ils les engueulent en les traitant de racistes. C'est assez rigolo. Et naturellement, les gens ne font rien, car que mériteraient ces deux pétitionnaires, c'est de se prendre un coup de pied au cul, tout simplement. Mais personne ne bouge. Donc on ne voit pas pourquoi ils se gêneraient et pourquoi ils continueraient pas à faire ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en France, c'est un pays tellement raciste que les étrangers peuvent venir vous dire en face que vous êtes raciste sans que vous bronchiez. Ce qui prouve qu'on est quand même des terroristes racistes. Et pour finir, un auditeur dit « Monsieur de Beckett, je prends des risques avec ses propos qu'il mette une ceinture de sécurité. » Eh bien, c'est ce que je fais, figurez-vous. Marc Dem.
Bonsoir, Serge.
Bonsoir, Marc. On vous prend un petit peu en avance ce soir, oui, puisque la deuxième partie de l'émission sera consacrée au fou du roi. Et je vous donne un peu plus de temps que d'habitude, puisque vous n'étiez pas là la semaine dernière.
La semaine dernière...
Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Ou c'est la semaine d'avant,
je sais pas. Enfin, il y a une semaine.
En tout cas, il y a une semaine que vous n'étiez pas. Et donc, vous n'avez pas pu nous donner, non pas la substantifique moelle, mais l'essentiel du contenu de votre lettre confidentielle d'information religieuse, qui s'appelle Iota Unum, et qui est vendue par abonnement à l'adresse suivante, boîte postale 52, 78-101, Saint-Germain-en-Laye, SEDEX. Alors, où en est notre Sainte Mère?
Alors, notre Sainte Mère, l'Église, eh bien, nous parlons évidemment, je parle dans le prochain numéro, je parle d'elle, et je donne une nouvelle que la Croix refuse à ses lecteurs, et beaucoup de journaux aussi d'ailleurs, c'est la suivante. Le pape a demandé au cardinal Etchegaray, qui est président du Conseil pontifical Justice et Paix, comme on le sait, de produire un document où il dirait comment il faut arriver à faire régner la justice et la paix. Le cardinal s'est a obtempéré, et le 21 juin, donc il y a quelques jours, il a présenté à la presse en Italie, à Rome, il a présenté son document. Et ce qu'il trouve, enfin le nerf de son argumentation, c'est la suivante, c'est le suivant, il faut rompre la logique de la guerre, et pour cela, il faut établir des pouvoirs publics ayant une compétence mondiale. Bon, il s'agit donc bien de gouvernement mondial.
Qui a écrit ça?
Le cardinal Etchegaray.
C'est très étonnant, ça.
Oui, c'est étonnant, parce que tout ce qui a précédé a été également étouffé en France. Par exemple, ce que je rappelais dans mon livre sur Fatima, en 1992, le cardinal Sodano, à Fatima, publiquement, enfin dans son discours pour le 75e anniversaire des apparitions, a dit « Je demande à Dieu qu'il illumine l'humanité pour que les hommes sachent voir en Jésus-Christ le sens de la vérité, pour qu'il... » Et le cardinal Casaroli lui emboîtait le pas en disant « À présent, il faut créer une autorité internationale compétente et dotée des moyens nécessaires. » Donc, c'est bien... c'est plus qu'une idée qui court, c'est de la part du Saint-Siège, c'est une idée bien précise. C'est un projet bien précis qui rejoint ce que j'avais publié précédemment sur cette affaire du Sinaï.
Oui. Ça, c'est quand même capital, cet engagement des plus hautes autorités de l'Église dans le combat mondialiste, enfin dans le projet mondialiste. C'est tout à fait frappant. Surtout que, pour autant que je sache, que ce soit Monseigneur Etchegaray, le cardinal Sodano ou Casaroli, ils ne sont pas considérés comme des progressistes de choc.
Pas particulièrement. Ouais. Mais enfin, ils appliquent le programme du pontificat.
C'est ça.
Celui-là.
Ouais. Bien. D'autres informations.
D'autres nouvelles. Il y a, je m'attaque, si je puis dire, à un évêque qui est le mien, qui est Monseigneur Thomas, dont nous avons dans Iota Unum déjà souvent parlé, pour dire ceci. À nouveau, il préconise le libre examen. Il l'avait déjà fait dans ses orientations pastorales pour les années en cours, et en disant, vous savez, le magistère ne peut pas toujours dire ce qu'il faut faire, il ne peut pas le faire assez vite, ni avec les moyens voulus pour le faire connaître. Donc, il faut de plus en plus cultiver la conscience personnelle. Hein. La conscience personnelle, le libre examen, en d'autres termes. Et ici, pour une question qui, elle, a été très nettement précisée par le magistère, Mgr Thomas fait la même chose. Cette question, c'est la question de l'appartenance à la franc-maçonnerie. Mmh. Bon, tandis que le 26 novembre 1983, la Congrégation pour la doctrine de la foi répétait dans une instruction, répétait ceci, il reste interdit par l'Église de s'y inscrire à la franc-maçonnerie. Les catholiques qui font partie de la franc-maçonnerie sont en état de péché grave et ne peuvent s'approcher de la Sainte Communion. Mmh. Voici comment traduit aujourd'hui Mgr Thomas. Il dit, le fidèle éclairé doit réfléchir sérieusement au risque qu'il court en acceptant l'initiation à une loge maçonnique. Il lui appartient, ainsi éclairé, de s'appliquer éventuellement la sanction de ne pas communier, s'il a conscience d'avoir librement, volontairement, pris une décision qu'il mettait en état de rupture avec Dieu.
Bon, c'est pas très étonnant parce qu'on sait, je sais que je vais faire de la peine notamment à toutes les associations paroissiales ou plutôt diocésaines de Versailles, mais je suis obligé quand même de dire que ce n'est pas la première fois que Mgr Thomas marque cette faveur quand même très très suspecte à l'égard de la franc-maçonnerie.
Oui, et pour le libre examen. Oui. Alors, je pose la question, mais avec un point d'interrogation, est-ce que c'est un évêque protestant?
C'est possible, c'est d'ailleurs son droit le plus strict, mais il faudrait qu'il le dise.
Il y a un autre évêque qui disait « Je ne veux pas mourir protestant ».
Oui.
Alors, une troisième nouvelle, puisque vous aimez aussi les bonnes nouvelles, bien ici, il y en a quand même une qui est relativement bonne. Les comptes du Vatican ne sont plus au rouge. C'est la première fois depuis 22 ans. Hein. Tiens, ils terminent l'année 1993 avec un léger bénéfice.
Voyez, moi qui ai l'esprit décidément mal tourné, j'aurais tendance à rapprocher cette information de toutes celles que vous venez de nous donner.
Oui.
Vous voyez ?
De quelle façon ?
Eh bien, je trouve que c'est quand même très curieux que depuis des années, le Vatican ait été dans une situation financière catastrophique, et que comme par hasard, au moment où il commence à dire que, et à dire et à laisser dire que ce serait très très bien de faire un grand concile pour l'an 2000 à Jérusalem, que évidemment l'Église a une formidable responsabilité dans tous les crimes qui ont été accomplis depuis 2000 ans sur la Terre, que la seule solution c'est un gouvernement mondialiste, et que le libre examen du chrétien lui permet, si c'est fait sérieusement, d'adhérer à la franc-maçonnerie sans pour autant être excommunié, ce qui revient à dire que la franc-maçonnerie n'est plus ennemie de l'Église, et bien c'est au moment où l'Église se met, où certains prélats se mettent à dire tout ça, que l'Église retrouve son équilibre financier.
Oui, oui, oui. Mais vous savez, votre analyse n'est pas mauvaise.
Mais je vous remercie de le reconnaître.
Effectivement, parce que c'était encore le désespoir des financiers du Saint-Siège il y a quelques mois.
Oui. Bah, apparemment, un généreux donateur, à moins qu'ils aient touché une partie de l'héritage Maxwell.
Peut-être. Ou alors, ils ont peut-être vendu ça, l'affaire à tapis.
Oui, mais là, ils n'auraient rien touché.
Pour y revenir. Oui, alors, ce qu'on explique, c'est que jusqu'ici, le fabuleux déficit du Vatican était dû à l'exécution des décrets du Concile Vatican II. Il a fallu mettre en place un tas de commissions, Et puis tout à coup, alors, ce qui montre en passant que Vatican II a fait des ravages dans tout, y compris dans la caisse. Mais que ce qui montre aussi que il est bizarre que tout à coup, ces frais occasionnés par Vatican II n'existent plus, puisque la caisse est à nouveau remplie.
Est-ce que ça veut dire qu'on arrête tout, alors ?
Alors, ça m'étonnerait qu'on arrête tout, puisque de plus en plus, Vatican II est à l'honneur.
Ça serait pourtant une bonne idée. Merci Marc, à la semaine prochaine.
Je
rappelle que si on veut recevoir Yota Unum, on envoie sa carte de visite et quelques timbres à boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Dernier message d'auditeur. Un auditeur précise que le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit, était la maxime de Saint-François de Sales. Un auditeur nous dit, il est tout à fait naturel que monsieur... Plusieurs auditeurs d'ailleurs nous disent qu'il est naturel que Monsieur Tapie s'entend bien avec Mitterrand, puisqu'ils ont... Tapie doit admirer Mitterrand pour le coup de l'observatoire. Et puis pour vous montrer comment des fois c'est difficile de faire cette émission, je vous dirais deux choses. La première, c'est qu'un des invités qui était prévu n'est pas venu sans prévenir. Ce qui est au moins indélicat, et ce qui met le directeur de l'émission dans une situation souvent très difficile. La deuxième, c'est ce message. Une auditrice dit... Je suis si étonné que vous défendiez Monsieur Tapie que j'ai suspendu mon élan d'écouter Radio Courtoisie. Voilà, il paraît que j'ai défendu Monsieur Tapie. Je crois que, madame, que vous avez tout à fait raison de cesser d'écouter Radio Courtoisie puisque vous ne l'entendez pas. Et vraiment, il n'est pas utile d'écouter une radio qu'on n'entend pas.
Plusieurs auditeurs demandent le numéro de téléphone de la mère agitée, qui est le 43 35 56 64. Et c'est ouvert du lundi au samedi, le midi et le soir.
Alors, à ce propos, beaucoup d'appels concernant effectivement toutes les faiblesses de l'administration. Un auditeur nous dit, les exonérations fiscales sont accordées à l'impôt sur les bénéfices, mais à condition que le demandeur n'ait aucune compétence en la matière dans laquelle il s'investit. Un autre auditeur dit, l'aide aux entreprises est surtout tournée vers les socialistes pour détourner de l'argent des contribuables et créer des entreprises fictives. On en a de nombreuses preuves. Un auditeur nous dit, l'aide des banques est plutôt orientée vers les gros emprunteurs capables de flamber des milliards que vers les petits entrepreneurs laborieux. Un auditeur dit, je suis artisan, je cotise à toutes les assurances, mais si un jour je suis sans travail, je sais que je ne serai pas indemnisé. Un chômeur qui avait créé sa propre société en rachetant un fonds de bijouterie s'est empressé de demander la prime d'aide au créateur de société alors qu'il n'avait encore que la promesse de vente. On lui a refusé la prime parce qu'il était déjà engagé, ayant signé la promesse de vente, avant d'avoir déposé le dossier de demande. Et pour conclure, on va dire que je dis du mal des fonctionnaires, un ancien fonctionnaire nous dit, il y a un vieil adage qui dit, si vous n'avez pas besoin de l'administration, vous pouvez vous adresser à elle. Mais si vous avez besoin d'elle, c'est pas la peine d'y compter. Voilà. Vite, quelques annonces. On a encore un petit peu de temps? Non. Eh ben alors, tant pis, il n'y aura pas d'annonces. Je les ferai la semaine prochaine. Elles n'ont aucun caractère d'urgence. Je laisse la parole à Daniel Amiche. Je vous remercie d'être resté avec nous. Je m'excuse du caractère un peu décousu de ce journal qui est lié à la carence d'un des invités. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Voici un message de Bernard Lugan, historien, expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
Dans le climat du politiquement correct actuel, avec cette tyrannie de la pensée unique, Radio Courtoisie est un élément indispensable à la fois de sauvegarde intellectuelle, de résistance et également, bien entendu, de reconquête. Radio Courtoisie est un élément essentiel pour la salubrité intellectuelle et pour la santé mentale des Français de souche, des Gaulois qui de plus en plus ont l'impression de se trouver un peu dans un territoire insolite dans ce beau pays de France. Alors Radio Courtoisie, pour les habitants de la région parisienne, est une cure quotidienne. Pour nous qui vivons en province, eh bien c'est une approche un peu plus difficile. Et c'est pour cela qu'il est absolument fondamental, essentiel, que cette radio non seulement vive, non seulement qu'elle survive, mais surtout qu'elle s'étende, car qui n'avance pas recule. Tous mes encouragements à Radio Courtoisie et pensons donc à tous ceux qui ont fait cette radio et tous ceux qui l'ont portée à bout de bras depuis des années, que leurs efforts ne demeurent pas vains et vive Radio Courtoisie.
C'était un message de Bernard Lugan, historien, expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Si vous aussi vous souhaitez que de plus en plus de Français aient accès à Radio Courtoisie, aidez-nous à mettre en place la diffusion à la demande sur Internet. Envoyez vos dons ou votre cotisation à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou sur radiocourtoisie.net. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur le bouquet satellite CanalSat, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
Merci de passer cette nuit en notre compagnie. À 5h, Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, commence ses émissions avec une introduction musicale, suivie à 6h de chant grégorien, proposé par Patrick Banken, président d'Una Voce. Et suivi ensuite à 7h30 du Saint du Jour, proposé par Louis de Beaumont, et le Saint du Jour est Saint Léonard de Noblac. Un petit problème technique, et rien de grave. Et tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, document d'archives datant du 29 juin 1994.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, assisté de Françoise Varley, document d'archives datant du 29 juin 1994 et diffusé dimanche 7 novembre 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir, amis auditeurs. Bienvenue dans cette 31e chronique. Parce que j'ai fait le compte, nous sommes à la 31e chronique, donc ça commence à faire un certain nombre d'heures passées à ce micro. Et excusez-nous, je vous prie, de petits problèmes techniques qu'il y a eu. Ce n'est pas vraiment l'indicatif de cette chronique, mais ce n'est pas dramatique, parce que c'était quand même du Rameau, donc le bon Jean-Philippe Rameau s'y retrouve quand même. Donc, de nouveau, bonsoir à tous. J'espère que vous allez rester avec nous pour cette partie de la soirée qui s'annonce extrêmement intéressante, puisque nous avons beaucoup de personnes et même de personnalités qui sont autour de notre micro. Et nous allons parler successivement ce soir d'un spectacle tout à fait attachant sur Bernard de Clairvaux, et c'est son metteur en scène, Michael Lansdale, qui a bien voulu venir nous en parler. Et puis nous recevrons également Véronique Wissinger, qui est le conservateur du musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, à propos d'une exposition sur l'ordre du Saint-Esprit. Et puis nous recevrons, en dernière partie d'émission, un certain nombre de responsables d'universités d'été, ce qu'on appelle traditionnellement les universités d'été. Alors il y en a plusieurs, vous entendrez successivement Jean-Marie Blackman, qui dirige l'université d'été légitimiste, et puis vous entendrez, s'il arrive, Michel de Gégère, pour l'université de Renaissance catholique. Je dis bien s'il arrive, parce qu'il n'est pas encore dans le studio, mais enfin bon, tout peut arriver. Et puis également, donc, Sébastien Lapac et Marc Sala, voilà, ça qu'il faut dire, pour l'université d'été que ses amis sont en train d'organiser pour la rentrée avec la revue Réaction. Alors, les présentations étant faites, nous allons écouter un petit peu de musique pour nous décontracter et pour pouvoir entreprendre la suite de ce programme. Ça s'appelait La danse du Calumet de la paix. C'est très bien, c'est tiré des Indes galantes, un grand opéra de Rameau, qui est aussi un très grand auteur. Et on passe ici, enfin, j'affectionne beaucoup donc la musique baroque, et en particulier Jean-Philippe Rameau, et les Indes galantes en particulier. Alors je pense que La danse du Calumet de la paix, dans cette période qui n'est pas véritablement marquée par la paix dans le monde, bon, est une petite incitation à la méditation. Et à propos de méditation, je rends hommage, d'abord je salue Michael Lansdale d'avoir bien voulu, et je le remercie d'avoir bien voulu venir à cette émission, pour un spectacle. Il montre, je crois que c'est la 5e édition de ce spectacle sur Bernard de Clairvaux.
Oui, c'est une fresque musicale, comme on dit, c'est-à-dire une musique moderne, mais enfin, troubadour moderne, si ça peut vouloir dire quelque chose. Et donc c'est 14 tableaux de la vie de Bernard de Clairvaux en musique. Et voilà, alors c'est l'occasion de découvrir ce grand personnage que je suis très heureux de faire renaître un peu de ses cendres, parce qu'il a perdu beaucoup de son aura, si je puis dire, pas de sa sainteté, mais de son aura. C'était un saint très aimé des Français jusqu'au XVIe siècle, et puis après il a été dépassé par Sainte Geneviève, Saint Louis, Jeanne d'Arc. Et on l'a un peu oublié, c'est dommage, parce qu'il y a chez lui des fondations, c'est un homme de fondation, extraordinaire. On retrouve des valeurs, on découvre que c'était un homme d'abord européen, enfin, sans le dire, enfin, il ne déclarait pas européen, mais...
Il avait une certaine idée de l'Europe.
Il avait une certaine idée, en fait, de la spiritualité européenne. Oui, ça a été peut-être même le fondateur de ça. On découvre un homme extrêmement... avec un regard tout à fait clair et net sur les exactions que les Juifs subissaient chaque fois qu'on demandait une croisade. Et il a été en Allemagne lui-même arrêté ces exactions avec une reconnaissance officielle des grands rabbins de plusieurs grandes villes d'Allemagne. Et c'est très étonnant pour un catholique, un saint, de s'être déclaré officiellement comme ça, en disant ne touchez pas à ce peuple, c'est le peuple élu, laissez-les vivre et vous n'avez pas le droit de les massacrer comme vous le faites. Alors ça c'est une bonne nouvelle, je trouve. Et alors c'est un fondateur, bien sûr, d'ordre et un fondateur d'un style, le style cistercien avec ses abbayes extraordinaires d'une force et d'un dépouillement total. Je pense à Autoroné, à Fontenay, enfin il y en a au moins, il a fondé 60 abbayes de son vivant.
Comment avez-vous découvert Bernard de Clairvaux et comment l'idée vous est venue, ou plutôt comment la sollicitation vous est arrivée de vous occuper de ce spectacle?
Elle m'est venue d'une rencontre avec Daniel Facerias, musicien que j'avais rencontré à Paris de Monial, où nous avions été pour une session. Et là, il m'a parlé de ce projet en me disant, voilà, nous avons l'intention de former une grande, de faire une grande fresque à Clairvaux même, dans la campagne, pas dans la prison, hélas, mais... Et non, tant mieux pour les prisonniers, parce que ce serait assourdissant d'entendre ça tous les soirs. Mais à 2 kilomètres de la centrale, l'abbaye où, que Bernard a fondée, à Précito. Et donc j'ai répondu à ça, je connaissais pas Bernard, ou très peu. Et j'ai donc lu sa vie, ses lettres, sa correspondance, et nous voilà partis dans cette grande aventure qui se voulait... très brillante et nombreuse, avec 120 personnes sur 100, une centaine de personnes sur scène, enfin oui, 110 avec les 100 bénévoles et 10 artistes que nous avons recrutés localement. Et puis un lieu splendide, une grande prairie en bordure de forêt, avec des champs et un clair de lune magnifique certains soirs.
Certains soirs, oui. Ah, ça fait partie de ces grands spectacles d'été et de plein air, en quelque sorte, ces grandes cinécénies, comme on dit maintenant, puisque le mot est quasiment passé dans le langage du spectacle. Donc, animé en partie, pour l'essentiel, par des bénévoles, avec aussi, bien sûr, le concours, comme vous l'avez dit, de professionnels. Ces bénévoles, alors vous les connaissez depuis 5 ans, quelle est leur attitude par rapport au projet, par rapport à vous, par rapport au spectacle?
Oh, bien, au début c'était très impressionnant pour eux, parce que travailler avec un homme qui avait déjà fait du théâtre, et eux, certains n'en avaient jamais fait, ils étaient très timides et très intimidés, alors il a fallu tout doucement faire amitié avec eux, leur parler, les rassurer, et leur faire des petites choses modestes pour commencer. Et puis devant tant de bonne volonté, tant de personnes qui après sont devenues très... Quand ils ont vu que nous étions gens sérieux, parce que tout de même les gens du spectacle c'est pas toujours sérieux, ils ont été rassurés, des familles, des pères qui amenaient leurs enfants, qui regardaient ça un peu de loin, puis au bout d'un certain temps ils ont compris que ce qu'on faisait c'était un travail honnête. Alors ils ont fini par adhérer eux aussi, et alors la famille s'est agrandie. Alors nous avons ça va de l'âge de 6 ans à l'âge de 83, nous avons beaucoup d'enfants.
C'est mieux que Tintin, alors.
C'est mieux que Tintin, oui, et des personnes âgées qui sont très présentes et qui pour rien au monde ne lâcheraient le spectacle, qui tous les ans sont là, qui attendent ce moment, en disant, venez, on vous attend. Alors donc, j'ai créé beaucoup d'amitié, beaucoup, alors on a été reçus chez les uns, chez les autres, il y en a qui sont dévoués d'une façon magnifique, pas d'autre mot.
Et le rapport de toutes ces personnes avec Bernard, puisque bien sûr il y a l'aspect spectacle, le stress du spectacle, les répétitions, etc. Mais il y a aussi sans doute la découverte du personnage exceptionnel.
Bernard est connu dans la région, parce que c'est tout de même la grande personnalité du coin, il n'y a pas tellement de héros là-bas. Donc Bernard, à part Gaston Bachelard, second personnage de la région... Mais oui, donc Bernard est très aimé encore. Hein. Il y a plein de petites chapelles d'église où il y a des reliques de Bernard. Tous les ans, il y a un rassemblement le 22 août pour la fête de Bernard, avec toute une cérémonie. Et j'ai vu des statues magnifiques de Bernard chez des particuliers. On l'aime bien, Bernard. C'est leur saint. Hein.
Et vous, alors, c'est quoi Saint-Bernard maintenant que vous avez rencontré ce personnage?
Ah ben, pour moi, c'est l'homme d'une force de caractère et d'une inspiration absolument extraordinaire. Alors, comme je vous l'ai dit, déjà un peu fondateur, on venait le voir de partout pour qu'il tranche, pour qu'il discerne, pour qu'il aide les gens à ne pas se battre. Et cet homme qui était allé à Clairvaux pour avoir la paix, enfin la paix pour être priant, enfermé, a passé sa vie à cheval, à courir d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, il est allé très loin. Et on venait le voir de très très loin pour une conciliation, pour essayer d'empêcher les guerres. Et il a donc été aussi alors un homme qui a correspondu avec beaucoup de femmes, ce qui était rare à l'époque, qu'un moine ait une correspondance avec beaucoup de femmes. C'est très bien, je veux dire, ça prouve qu'il était ouvert à toutes sortes de choses. Et puis, fondateur donc d'un style, et puis... magnifique écrivain, quoi. Son commentaire du Cantique des Cantiques, c'est plein de générosité, d'intelligence, de force. C'était un homme de caractère, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est bien de faire parler, de repartir, d'essayer de refaire une société à partir de gens solides qui avaient une force incroyable de à la fois de foi et en même temps d'envie que le monde ne se déchire pas.
C'est rare pour un comédien d'aborder les problèmes de la foi, les problèmes de la spiritualité, de les mettre en scène, mais peut-être d'un point de vue moins spectaculaire que d'un point de vue spirituel, justement. Comment c'est arrivé chez vous, cette découverte?
Ah ben, c'est arrivé par une reconversion. J'avais été baptisé jeune, mais ensuite j'avais mené une vie, je dirais, de croyant un peu tiède, et même beaucoup tiède. Et à la faveur d'événements dans ma vie très douloureux, j'ai retrouvé une foi. J'aurais préféré évidemment avoir une foi plus vivante à partir d'événements heureux, mais c'était pas mon destin. Donc il a fallu appeler au secours, et puis le Seigneur m'a répondu, et de manière inoubliable. Et à partir de là, ça m'a donné l'envie de témoigner de ce qui était constructif pour l'humanité. Parce que dans notre métier, il y a énormément de spectacles qui sont de très belles choses, mais d'un désespoir total, et on voit combien de crimes, de massacres, de situations atroces où les gens sont plongés dans les drames. Je crois qu'il faut montrer le drame comme l'a fait Dostoïevski, quand vraiment il part d'une vérité humaine très profonde, mais sinon il y a un culte du désespoir, il y a un culte du massacre, il y a un culte du crime qui est... Oh, je crois qu'il faut le tempérer. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on construit un monde vivable. Faut pas tomber dans la participation de... Gandhi disait toujours, ne rajoutez pas la bêtise du monde.
C'est déjà suffisamment encombré comme ça, sans qu'on rajoute soi-même sa propre bêtise. À part le spectacle Bernard de Clairvaux, dont on va donner quelques détails pour les auditeurs, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer actuellement?
Ben, je travaille sur un autre grand saint qui n'est pas français, celui-là, qui est Saint-François d'Assise, auquel je prépare un spectacle pour le 19 juillet à Paray-le-Monial. Et il y a plusieurs projets avec le Cantique des Cantiques, enfin il y a toutes sortes de textes. Vous savez, je les découvre de plus en plus et je suis ébloui par tout ce que je retrouve et que je connaissais, mais que je n'avais pas approfondi. Alors là, c'est une espèce de bain de jouvence que de se plonger dans les écritures, les textes, les psaumes. On va peut-être enregistrer les psaumes. Il y a plein de choses à faire.
C'est une mine inépuisable. À la fois pour la mise en scène, pour la méditation, pour des spectacles d'intérêt, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, comme il y a quand même un retour, un renouveau extrêmement sensible de la spiritualité, la foi, ce sont des spectacles qui doivent aider justement.
Quand je travaillais sur un autre spectacle qui s'appelait Les Récits d'un pèlerin russe, qui sont aussi une découverte de l'hésychasme, la prière du cœur et l'emploi de cette prière. Et tout d'un coup, on découvre des trésors, mais des trésors inouïs. Alors ça, j'avoue que je suis heureux, je jubile à l'idée de travailler dans la proximité des saints et des choses qui devraient être la lumière du monde, mais qu'on ne connaît pas assez.
Mais on vous souhaite une longue jubilation, et on souhaite surtout, et par-dessus tout, que cette jubilation, un grand nombre de chrétiens, ou même simplement de simples curieux, la partagent. Je crois que ce serait très utile. On va donner quand même quelques renseignements pratiques pour assister à ce spectacle sur Saint Bernard de Clairvaux, le grand Bernard, le fondateur de l'ordre cistercien, de l'art cistercien, enfin fondateur extraordinaire d'abbaye. Enfin, c'est absolument magnifique. C'est organisé donc par une association qui s'appelle ABC.
Association
Bernard de Clairvaux. Je vais donner un numéro de téléphone. Il s'agit bien sûr de la province. C'est le 25 27 88 19. 25 27 88 19. Donc ce sont des spectacles de nuit, n'est-ce pas? Ça commence sans doute à peu près
à la tombée du soleil. Oui, un peu plus tard quand même, 22h minimum.
22h, voilà, c'est un peu plus tard. Pour que le noir soit complet, et là, évidemment, il se passe des choses tout à fait mystérieuses, même au plan psychologique, dans ce genre de spectacle de nuit. Donc, vous avez toute une série de spectacles au mois de juillet, puis une série de spectacles, bien sûr, au mois d'août. En tout, je crois qu'il y a presque une douzaine de représentations.
Ce sont les vendredis et les samedis.
Voilà, bien sûr, toujours les week-ends. Puisque ce sont, bien sûr, pour l'essentiel, des bénévoles qui font le spectacle. Et on comprend très bien, comme un peu c'est la même chose au Puy du Fou, dans d'autres spectacles de cette nature, qu'on ne puisse pas demander à ces personnes tous les soirs venir faire le spectacle. Là, ils sortiraient du bénévolat pour rentrer dans le professionnalisme, qui n'était pas non plus...
Et nous avons quelques professionnels. Je leur rends hommage aussi, des personnes qui ont été découvertes dans la région Et on s'aperçoit qu'il y a des trésors en province, comme ça, de possibilités. Parce qu'on a toujours tendance à penser que tout l'art ne peut se faire qu'à Paris, mais c'est pas vrai.
Ah, ça, c'est les Parisiens qui pensent ça.
Oui, c'est les Parisiens qui pensent ça. Et alors, nous avons Bernard Splendide, nous avons...
Qui incarne
Sylvain Marmora, qui est un garçon qui avait une petite troupe à Fontaine, les quelque chose, là où Saint-Bernard avait été à l'école, et qui est maintenant près de Dijon. Et nous avons... une comédienne qui joue la sœur, Imbline, oui, qui elle habite Troyes, et enfin Paris aussi, Marianne Audin, et puis les Octaves, qui sont alors un groupe de musiciens, chanteurs, comédiens, qui habitent Troyes et qui ont toute une activité. Alors ils font des très beaux spectacles sur Van Gogh, moitié chanté, moitié parlé. Alors eux viennent et font toutes sortes de rôles, avec une probité et un professionnalisme absolument remarquable.
Bah écoutez, merci, vous nous donnez très envie de nous rendre en Champagne, c'est la Champagne.
C'est la Champagne,
c'est clairement. Alors donc, je répète, je redonne quand même le numéro de téléphone pour les auditeurs, de telle sorte qu'ils puissent le noter, pour le spectacle donc Bernard de Clairvaux qui va se jouer les week-ends de juillet et août, donc c'est à partir de la semaine prochaine. C'est pas très loin de Paris d'ailleurs, la Champagne, on peut très bien partir de Paris, aller assister au spectacle et rentrer tranquillement, la tête pleine de magnifiques souvenirs. C'est... Bon, sinon, on peut se loger sur place, je suppose qu'il y a des hôtels.
Il faut prévoir,
quand même. Oui. Mais je redonne, alors pour bien prévoir, je vous redonne le numéro de téléphone, faire le 16, bien sûr, quand on appelle de Paris, ce qui n'est pas valable pour les auditeurs de province, ils peuvent appeler directement le 25 27 88 19, le 25 27 88 19. Eh bien, merci infiniment, Michael Lansdal, d'être venu parler de ce spectacle.
Je signale en dernière chose que c'est du 15 juillet à la fin août, au dernier week-end d'août.
Alors, il y a quelque chose de bizarre, voilà. Un auditeur, parce qu'on reçoit des petits messages comme ça. Bon, alors je vous le dis, peut-être que ça va vous inspirer. Par exemple, un auditeur dit, je trouve abominable qu'on ait transformé l'abbaye de Clairvaux en prison. Ben, je suis bien d'accord avec cet auditeur, mais il y a tellement d'autres abbayes qui ont été transformées en prison. Celles-là, au moins, elles existent toujours, parce qu'on en a quand même rasé un grand nombre, non?
Oui, il y en a pas des masses. Il y a Fontevraud, qui maintenant a été rendu, malheureusement pas au culte, mais en tant que musée. Et puis en effet, Clairvaux, dont une partie reste encore prison, il y a une grande partie qui a été libérée, mais enfin il y a encore deux centrales très importantes. Oui.
Voilà, alors une auditrice qui dit « j'aimerais entendre parler de Saint-Bernard et non de Bernard ». Bon, alors voilà, quand il était vivant, on l'appelait Bernard de Clairvaux.
On travaillait avec lui, il était Bernard à l'époque, il est devenu saint après.
voilà, bon, enfin, mais il est saint, madame, rassurez-vous, il est saint. Oui. Alors un autre auditeur aussi, pourquoi donner lecture du Cantique des Cantiques amputé du chapitre 8 alors que l'on sait que le chiffre 8 est le signe numérologique du Christ?
Ah oui, mais sûrement pas dans la version sur laquelle je travaille. Non, c'est la totalité. Oui.
Alors, je remercie monsieur l'auditeur de cette question, mais je pense que ça ne s'adresse pas à notre invité de ce soir. En tout cas, merci. Puis, bien sûr, vous pouvez encore téléphoner au 46 51 0085, autant que vous le voulez. On est ensemble jusqu'à 9h05. Merci, Michael Lansdal, et puis soyez sûr que vous êtes toujours le bienvenu. Dans cette émission, pour tous les autres spectacles que vous auriez à monter à Paris ou en province, sachez que vous trouvez toujours ici un petit refuge, un petit oratoire pour venir vous épancher, parce que je crois que ça intéresse quand même beaucoup nos auditeurs. Merci infiniment. Nous allons donc maintenant passer un tout petit peu de musique. Technicien, oui, d'accord, on passe un petit peu de musique. Je pense que ça va être dans l'ordre cette fois-ci. Donc nous devrions entendre du Lully. Espérons. Aspect de la musique baroque, là vous avez entendu Lully, on a déjà passé plusieurs fois ce disque dans différents tempos, différentes interprétations. C'est bien sûr tiré de la comédie ballet Le Bourgeois Gentilhomme, et c'était le ballet des nations, si on préfère, la Marche des Turcs. Alors, on en a déjà. Et puis, je trouve que c'est très Guiret. Moi, j'aime beaucoup Lully, j'aime beaucoup le baroque. Enfin, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, ici, il y a des gens de réaction qui aiment aussi beaucoup le baroque. Alors, je salue bien sûr les arrivées, alors les départs, les arrivées. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être un petit moment de flottement. Alors, Michel Degère est arrivé. Bonsoir, Michel, merci d'être avec nous. Jean-Marie Blackman est arrivé, merci d'être avec nous. Puis, alors, surtout, alors, Pierre-Emmanuel.
Bonsoir.
Qui est bonsoir. Voilà, parce qu'on se soucie beaucoup de vous. Moi, j'ai eu des coups de téléphone cette semaine d'auditrices, disant, enfin, vous ne donnez jamais la parole à Pierre-Emmanuel.
Ah, ça me fait plaisir.
Alors, oui, mais alors, je dis à aux personnes qui m'ont téléphoné pour me le dire que je lui donne la parole quand il est aux émissions. Mais quand il arrive en retard comme aujourd'hui, c'est très compliqué de donner la parole.
Oui, voyez-vous, quand même, bon. Ça prouve qu'il y a des auditrices
compréhensibles. Et puis, je salue aussi la présence-absence. Pour l'instant, elle est arrivée, mais elle est repartie de notre ami Anne-Laure. Bien, écoutez, Pierre-Emmanuel, puisque vous venez d'arriver, il faut parler bien en face du micro. Il marche pas, peut-être, ce micro. Si, si, voilà. Parlez bien dans le micro. Voilà, n'ayez
là,
pas peur.
Ça marche,
oui. Un micro n'a jamais mordu personne. Par contre, il nous arrive, nous, de les mordre.
Bon,
de nervosité.
Alors, vous avez quelques...
Eh ben, écoutez, ce serait bien. Si vous faites tout de suite comme ça, je serais soulagé. Ben, ouais, baissez-vous un peu pour parler dans le...
Je suis trop grand, excusez-moi.
Mais non, vous n'êtes pas si grand que ça.
Ça va être à vous tout de suite, puisque je voudrais d'abord signaler la sortie du Fidélis numéro 6.
Alors, ah, bah, c'est gentil.
Petite revue.
Ça, c'est gentil.
C'est même une grande revue.
Je m'y attendais pas.
Non, c'est une surprise qui fait plus de 60 pages, n'est-ce pas? Donc, c'est le numéro 6.
Oui.
Et le titre du numéro 6, c'est Le procès du millénaire.
Oui.
N'est-ce pas? Donc, texte officiel, commentaire du baron Pinotto, les jugements du tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt de la cour d'appel, etc.
Ah oui, c'est le fameux, vous voulez que...
Dis-moi un peu plus le procès du millénaire.
Pas longtemps, parce que le procès du millénaire, bon, c'est une expression journalistique, c'est les grands procès qui avaient eu lieu en 88-89, à l'initiative du prince Henri d'Orléans contre le prince Alphonse de Bourbon. Puisqu'il s'agissait dans l'esprit du prince d'Orléans de faire interdire à un tribunal de la République à la fois l'usage du titre de duc d'Anjou et surtout l'usage des armes de France. Et il se trouve que malheureusement pour le prince d'Orléans, la justice française a rendu un verdict à deux reprises, à la fois en première instance et en appel, très contraire à ses espérances. Alors là, ce sont les pièces du procès qui sont réunies, de telle sorte que chacun puisse les étudier, puisque là, il n'y a pas tellement de commentaires à faire sur un arrêt de cour d'appel, ou sur un jugement de grande instance. Fidélire, puis en lisant, on comprend. Voilà, vous êtes content? Alors
oui,
continuez vos
pas. Je vais juste dire où on
peut le procurer. Alors on peut se le procurer à Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, le cahier
est disponible,
c'est 70 francs. Voilà.
C'est ça.
Donc elle est à Duquesne Diffusion. Pour les provinciaux, eh bien, ils peuvent envoyer 70 francs à Sicre, 1 square Racan, 75 016 Paris. J'ai fait ma pub.
Merci Daniel.
C'est moi,
j'ai quelques expositions à signaler. D'abord la commémoration de la mort de Charette. Donc ça se passe le 2 juillet, c'est à 11h dans la ville de Bouin. En présence de Philippe de Villiers, il y aura le dévoilement d'une stèle au champ des fusillés et d'une plaque sur la place Charette, une plaque qui vient de se baptiser Charette. C'est la place de la ville de Bouin.
Donc, mais c'est pas une exposition, ça, c'est une commémoration. Ah bon.
Non. On peut avoir des renseignements au 51, 68, 74, 14. Donc première exposition. Deuxième exposition, c'est autour de la petite table vénitienne de la duchesse d'Angoulême.
Ah oui, ça c'est
alors,
délicieux.
Ça se passe à Étretat, au château des Aigues. Et c'est donc une exposition autour de la duchesse d'Angoulême et notamment d'objets qui lui ont appartenu. C'est du.
Qui était la duchesse d'Angoulême?
C'est la fille de Louis XVI.
Madame Royale, très bien.
Vous ne me collerez pas facilement là-dessus. Bien.
Et vous avez une très jolie cravate ce soir.
Merci, avec des fleurs de lys dessus.
Ah, ce sont des fleurs de lys?
Ah, c'est pas assez grosse.
Non, c'est très bien. C'est très élégant.
Donc c'est du 20 juin au 1er octobre. Les visites sont à 14, 15, 16 et 17 heures. Et on peut avoir des renseignements au 35, 28, 92, 77. Voilà, donc du 20 juin au 1er octobre à Étretat, château des Aigues.
Voilà, alors on peut aussi demander des informations à l'association France Bourbon. On peut appeler maintenant, puisque c'est après 19h, donc là c'est largement passé, à Paris, donc le 46 33 80 87.
Alors, l'exposition était organisée sous le patronage
de France Bourbon, voilà. Très bien.
Ensuite, une exposition sur les plans de Paris, au 16e et au 17e siècle, ça se passe à Paris, c'est...
Non, c'est bien.
C'est bien, n'est-ce pas?
Oui, parce qu'on devrait en parler aussi plus tard, mais enfin c'est bien.
Très bien, mais j'annonce l'exposition, on en parlera plus tard, donc c'est jusqu'au 25 septembre. À la bibliothèque historique de la ville de Paris, 22 rue Malher, dans le 4e arrondissement. On en parlera plus tard.
Excellent. Je réponds juste à l'auditrice qui s'est enquis à l'occasion du passage de Michel Lanzal, savoir s'il existait une cassette vidéo du spectacle. Eh bien, il n'en existe malheureusement pas cette année. Peut-être l'année prochaine.
Bon, on sera toujours l'année prochaine.
Si Dieu le veut, oh, je vous trouve bien présomptueux, mon cher, bien présomptueux.
Mémorial le Capétien. Donc ça, c'est la commémoration du 5e centenaire de la naissance de François Ier.
Eh oui, parce 1484, que c'est encore une année de commémoration. Hein.
1494, ah oui, une de plus. Je donne un peu. Alors ça se déroule donc au château de la Luzerne, très joli nom, à Bernières-sur-Mer. C'est dans le Normandie.
C'est en Normandie, c'est sur le bord de mer. C'est pas loin des plages du débarquement d'ailleurs.
C'est un château où il y a le mémorial où se trouve le mémorial capétien. Donc c'est une exposition permanente. Et il y a donc le samedi 16 juillet cette commémoration du 5e centenaire de la naissance de François Ier. Le programme à 15h, accueil et présentation. À 15h30, conférence de Pierre David, qui est président de l'Académie des sciences et des arts de Caen. Donc c'est sur le thème le voyage de François Ier en Normandie en 1532. Mmh. Et ça se terminera par un verre de l'amitié.
Ah ben ça, si vous pouvez commencer par le verre, j'irai tout de suite. Hein.
Voilà, donc le musée est également ouvert du 2 juillet au 15 août. Et on peut avoir des renseignements au 31 96 44 75. Ensuite, je voulais signaler, toujours dans la série des martyrs de la Révolution, vous voulez que je vous parle de Marguerite Jobard, je suppose, qui avait 24 ans, qui s'est fait guillotiner à Paris. Et je voulais juste... elle avait 24 ans, effectivement. Je voulais juste donner l'acte d'accusation de Fouquier-Tinville, qui était quand même assez...
C'est long, parce que la littérature de Fouquier-Tinville, c'est vraiment pas passionnant. Alors où les gens sont à table.
C'est pas très très long.
Bon, ben alors allez-y.
Je vous le donne rapidement. C'est la nommée Jobard, dite Dorothée, en proie à toutes les illusions du fanatisme le plus enraciné, et qui a été trouvée saisie d'une correspondance où tout ce que la haine de la révolution et la superstition peuvent dicter de déclamations, etc., etc. Vous voyez le style.
Et il y avait déjà la police de la pensée.
Et en définitive, la lettre d'où c'est tiré, c'est une lettre où elle disait « Maman, mes frères, sœurs, vous saluent, et en général toute la famille, nous sommes bien à plaindre ici. » Elle est dans une prison parisienne. « Je voudrais bien être auprès de vous pour faire un bon repas, car il y a 2 ans que je n'ai mangé, vous m'entendez. » En fait, elle veut parler évidemment de la communion.
Bien sûr,
c'est une des lettres pour lesquelles elle a été condamnée.
Oh bah oui, mais ça alors, bon. C'est tout ce que vous avez à nous dire alors? Parce que alors, il y a beaucoup d'autres expositions, il faut quand même rappeler Picpus.
Oui, des expositions en cours, moi je donne les nouvelles.
Ah oui, mais il faut toujours parler des expositions, c'est très beau. Moi je suis allé visiter l'exposition de Picpus, c'est absolument formidable, donc je ne peux qu'inviter les auditeurs de s'y rendre. C'est à la mairie du 12e arrondissement, donc c'est dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de Picpus. C'est très très bien fait, c'est vraiment tout à fait remarquable. Et il y a aussi donc le sacre d'Henri IV à Chartres, ça va commencer, c'est demain l'inauguration officielle. Alors je m'y rends demain, alors, comme ça je reparlerai un petit peu, je tâcherai de faire passer un petit billet à Serge mercredi prochain. Ça aussi, ça risque d'être une exposition de grand intérêt. C'est tout pour le domaine des expositions, dont on a déjà parlé. Ça y est. Ah ben écoutez, je vous remercie.
On parlera des concerts tout à l'heure.
C'est bien. Oui, on parlera des concerts. Alors c'est Anne-Laure qui va parler des concerts.
Anne-Laure qui parlera des concerts.
Bon, eh ben merci Anne-Laure d'être venue et de nous parler des concerts. Alors une petite pause musicale avant de parler d'une toute nouvelle exposition. Voilà, ça c'était très joli, enfin, j'espère que vous avez apprécié. C'est Robert de Vizet. Tout ça, ce sont des auteurs baroques français. Et alors, c'était une gigue, une petite musique que jouait la guitare sur laquelle on dansait autrefois. Alors, c'est pas très spirituel comme musique, bien sûr, mais enfin, mais c'est agréable. Enfin, on va parler de choses un peu plus spirituelles maintenant. On avait commencé avec Michel Lanzal et on va continuer, bien sûr, avec Véronique Wissinger, qui est... Alors, vous êtes le conservateur du musée de la Légion d'honneur. Je fais toujours cette précision parce que le conservateur du musée, c'est le chef. Et le conservateur au musée, c'est les sous-chefs, quoi. Alors nous avons ce soir un chef, le chef du musée de la Légion d'honneur, qui vient nous parler d'une nouvelle exposition qui vient de s'ouvrir le 22 juin, peut-on dire, et sur l'ordre du Saint-Esprit. Alors pourquoi une exposition sur l'ordre du Saint-Esprit ?
Quelques mois, et j'ai découvert que nous avions un superbe manteau de l'ordre du Saint-Esprit dans les collections et qui était malheureusement en fort mauvais état. Il était dans une vitrine qui était hélas non jointive, qui avait été faite en 1925 pour l'ouverture du musée, et ce pauvre manteau était exposé depuis 1925 à la poussière et également à la lumière du jour. Et je me suis émue de la chose, et grâce à la générosité de la Fondation Florence Gould, la fondation américaine bien connue, nous allons pouvoir restaurer ce manteau. Il nous est vite apparu que pour restaurer ce manteau, nous avions besoin d'espace, qui fait cruellement défaut au musée.
C'est un petit... Alors, rappelons que le musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie se trouve deux rues de Bellechasse. C'est vers le métro Solferino, je crois.
Nous sommes exactement en face de la sortie du RER Musée d'Orsay. L'entrée du musée se fait par le parvis et devant le musée d'Orsay. Il est accessible bien sûr par le métro Solferino qui est sur le boulevard Saint-Germain.
Voilà, c'est un ravissant petit bâtiment, mais petit.
L'hôtel de Sarnes est un des plus beaux hôtels de Paris, je crois qu'on peut le dire. Il est vrai que c'est un petit hôtel et qui abrite déjà les services de la grande chancellerie qui sont assez importants. Le musée a été créé en 1925 dans une des ailes du château, enfin du palais, mais bien sûr n'est pas extensible et nous avons effectivement des problèmes de place. Ayant décidé de restaurer ce manteau, il nous est apparu assez vite que nous ne pourrions pas le réexposer dans les conditions dans lesquelles il était précédemment, et cela nous a amené à envisager des travaux dans la salle consacrée à l'ordre du Saint-Esprit. Et c'est un peu tout ça, la restauration du manteau et le réaccrochage nécessaire des collections qui nous a amené à projeter cette exposition autour du manteau. Cette exposition ne traite pas de l'intégralité de l'ordre du Saint-Esprit, c'est vraiment une exposition autour de la restauration du manteau, et quand je dis autour, c'est vraiment autour.
C'est spectaculaire, les gens vont tout en visitant.
Puisque voilà, la restauration a lieu au milieu de l'exposition, avec des vitres bien sûr, mais je crois que c'est assez spectaculaire.
Donc on va voir la restauration faite par des ouvriers,
voilà,
ou des ouvrières.
La restauration va être menée par Madame Véronique Monnier, qui a déjà eu le privilège insigne de restaurer un manteau de l'ordre du Saint-Esprit, ce qui est assez rare puisque ces manteaux sont peu fréquents. Elle a restauré celui du musée de la mode de la ville de Paris, et elle a été chef du laboratoire du costume au musée des arts de la mode au Louvre, et je pense qu'elle est vraiment la personne la mieux placée pour faire ça. Donc elle va diriger une équipe de plusieurs personnes qui vont venir pendant 3 mois restaurer ce manteau.
Alors, un petit renseignement d'ordre historique quand même. L'ordre du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ?
L'ordre du Saint-Esprit a été fondé par Henri III en 1578, à un moment où il était en situation difficile. Il était pris d'un côté entre les protestants et d'autre part la Ligue, et il était attaqué sur de nombreux points, à la fois politiques, pour des questions d'impôts qui étaient très, très lourds à l'époque, pour d'autres questions ayant trait à sa vie privée, et il a senti le besoin de rassembler la noblesse et le clergé autour de lui, et il a donc recouru au même procédé qu'avait utilisé déjà Louis XI en 1469, qui avait fondé l'ordre de Saint-Michel, et il a donc décidé de fonder l'ordre du Saint-Esprit. Il s'est placé sous le Saint-Esprit parce que il avait été élu roi de Pologne le jour de Pentecôte, et il était devenu roi de France le même jour, et donc cette coïncidence lui avait frappé l'esprit, Et il avait donc considéré qu'il avait un lien particulier avec le Saint-Esprit, et c'est pourquoi il l'a choisi pour son ordre.
Et c'est devenu le plus grand ordre du royaume, qui a même un peu supplanté le Saint-Michel, puisqu'on devenait automatiquement Saint-Michel quand on avait le Saint-Esprit.
Voilà, c'est devenu le premier ordre du royaume. Saint-Michel était très dégradé à l'époque où Henri III a créé l'ordre du Saint-Esprit, et Henri III a souhaité statutairement en faire le premier ordre du royaume, ce qu'il est resté jusqu'en 1830.
Alors, pour vous, vous conservez ces vestiges. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? À part le manteau, il va y avoir quand même quelques pièces qui vont être exposées, dont des choses qui me semblent quand même très intéressantes.
Oui, lorsque je suis arrivée au musée, j'ai fait une sorte d'état des lieux, et notamment des réserves. Et j'ai réalisé avec un grand intérêt que nous avions non seulement des pièces de costumes très intéressantes, inachevées, qui datent en fait de la Restauration et qui ont été laissées en plan en fait au moment où l'ordre a été abandonné, et également des archives extraordinaires sur l'histoire de l'ordre du Saint-Esprit sous la Restauration, qui ont une histoire intéressante. En fait, lorsque l'ordre a été abandonné en 1830, l'huissier des ordres du roi a conservé, dans l'attente bien sûr de la Restauration possible, tous les papiers de l'ordre qu'il avait en sa possession, et également la masse de l'ordre qui avait été refaite sous la Restauration. L'autre, que vous connaissez bien, qui est au musée du Louvre, étant trop lourde et considérée comme ne convenant pas aux cérémonies ordinaires. Et donc cet huissier avait tout conservé par-devers lui, et ça s'est trouvé à un moment sur le marché antiquaire dans les années 30, date à laquelle le musée a pu se porter acquéreur de ces papiers.
Alors, quelle suite à cet ordre? Parce que bon, 1830, effectivement, c'est un ordre royal, c'est un ordre légitime, si je puis dire, à l'abdication du roi, enfin, en 1830, bon, c'est une autre monarchie qui rentre, qui ne s'occupe pas du tout du Saint-Esprit. Alors, y a-t-il eu ou pas survivance de l'ordre du Saint-Esprit comme ordre de famille?
Il y a eu effectivement survivance de l'ordre, il a continué d'être décerné, mais disons que n'étant plus un ordre souverain, enfin décerné par une puissance souveraine reconnue, nous n'avons pas souhaité aborder ce problème dans l'exposition qui se centre vraiment autour de l'ordre jusqu'en 1830. La plupart des œuvres que nous exposons datent de la Restauration, sont très bien datées et ont été faites essentiellement pour le sacre de Charles X. Nous n'avons pas souhaité poser le problème de l'ordre en tant que qu'ordre.
C'est oui, bien sûr.
Autour de la Restauration du manteau, et qu'est-ce que c'était qu'un costume sous la Restauration?
Le costume a évolué, d'ailleurs, c'est ça qui est une question qui est intéressante, parce qu'en de Henri III à Charles X, ça a
évolué. Le grand manteau, dont vous savez que les exemples sont extrêmement rares, le plus ancien qu'on connaisse est conservé à Cracovie. C'est un manteau de chevalier du XVIIe siècle. Ces manteaux étaient fort incommodes, extrêmement lourds. Ça se présente comme un grand ovale avec un trou au centre pour la tête et une fente qui permet en fait de le draper par-dessus l'épaule. Je le sais pour l'avoir convoyé du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. C'est excessivement lourd et en fait il a été très vite réservé aux cérémonies importantes de l'ordre et plus ou moins délaissé. Et sous Louis XIV déjà on constate qu'il est porté assez peu.
Uniquement dans les grandes, au moment de la
uniquement
prise,
dans les grandes occasions, et même lors des sacres des rois, il semble que tous ne portaient pas le grand manteau de l'ordre.
Alors quels sont les autres outils, les autres instruments de l'ordre? Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un est chevalier du Saint-Esprit?
Par serment, le chevalier s'engageait à porter toujours sur lui un insigne qui montrait son appartenance à l'ordre et sa dépendance vis-à-vis du roi. Donc il y avait des plaques d'habits qui étaient cousues.
C'était en passementerie généralement.
Qui étaient au départ en broderie de fil de soie et qui ensuite ont été agrémentées de paillettes et qui finalement sont devenues en métal coulé. Il y avait également donc la croix de l'ordre qui était portée au bout d'un ruban de couleur bleu céleste selon les statuts. Cette croix a aussi évolué. Elle était d'abord portée autour du cou à la manière d'une croix épiscopale sur l'estomac. Puis, comme c'était assez peu pratique, surtout pour monter à cheval, déjà sous Henri IV, on voit que le cordon est passé autour de l'épaule.
Quand on fait du cheval, c'est plus pratique de passer en bandoulière sous l'épaule que de l'avoir devant, ça c'est sûr.
Effectivement.
Je crois que c'est là l'origine d'ailleurs du... Je pense que c'est l'origine du fait qu'aujourd'hui, les grands cordons de tous les ordres se placent ainsi sur le corps. C'est en raison de cette époque d'Henri IV et peut-être d'Henri IV lui-même qui trouvait fort incommode d'avoir un machin qui virevole devant lui alors que c'était beaucoup plus pratique de l'avoir effectivement en bandoulière.
Il est bien possible que ce soit. L'ordre du Saint-Esprit, en fait, dans son histoire, aboutit au port des ordres qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'en fait, donc mis à part le grand cordon, il y a eu également, à partir de Louis XIV, la réalisation de petites croix portées au bout de ruban, qui sont les croix de chevalier qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est assez intéressant de voir cette évolution qui, bien sûr, a inspiré la Légion d'honneur et donc les ordres actuels.
Alors à qui donnait-on à qui le souverain grand maître, c'est-à-dire le roi donnait-il cet ordre?
Le roi le donnait aux personnes qu'il souhaitait s'attacher ou qui lui avaient rendu service. Il y avait un quota qui était fixé de 100 chevaliers. Parmi ces chevaliers, il y avait des ecclésiastiques qui étaient appelés commandeurs. Pour le reste des chevaliers, il s'agissait de ses proches ou de personnes de grande famille qu'il avait besoin de s'attacher. C'était un ordre très jalousement gardé par les membres. Il est intéressant de noter que par les statuts, ils étaient érigés en chapitres, c'est-à-dire en conseil de l'ordre, et qu'ils examinaient en fait les propositions du roi. Je doute qu'on ait beaucoup discuté ce que proposait le roi, mais il n'empêche que les chevaliers étaient fort attachés à ce privilège de se prononcer sur les propositions du roi. Et ils étaient ensuite parrainés au moment où ils étaient reçus par le roi. Ils devaient faire la preuve de leur noblesse à au moins 3 générations, alors que pour Saint-Michel, c'était 2 générations.
2 générations. Alors donc, je redis cette grande exposition sur l'ordre du Saint-Esprit, ou plutôt une grande exposition autour de la réfection d'un manteau de l'ordre du Saint-Esprit qui permet de voir un certain nombre d'objets tout à fait étonnants. Moi, j'avoue que je n'ai encore jamais vu de grand manteau de l'ordre du Saint-Esprit, donc je crois que je vais accourir chez vous. Alors, c'est ouvert depuis le 22 juin, l'exposition est ouverte depuis le 22 juin, et se poursuivra jusqu'au 25 septembre 1994. Donc, c'est un musée, autrement dit, c'est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h. Alors, pour se renseigner ou pour, par exemple, organiser, ce qui est une très bonne idée, des visites guidées. Parce que si vous avez la chance de tomber sur Mme Wissinger, vous allez apprendre énormément de choses. Donc, téléphonez. Alors, je donne 2 numéros de téléphone.
Oui, vous pouvez donner les numéros. Je dois vous dire que je ne fais pas les visites moi-même.
C'est bien dommage. Alors bon, vous aurez sans doute, je pense,
d'autres... Nous avons d'excellents conférenciers.
Bon, j'en doute pas. Donc, les 2 numéros de téléphone sont le 45-51-87-05. 45-51-87-05.
Oui, il y a un répondeur. Vous pouvez laisser vos coordonnées.
Et on rappelle. Ou alors, directement, le 45-55-95-16. 45-55-95-16. Donc je rappelle cette exposition sur l'ordre du Saint-Esprit où vous pourrez aussi voir, c'est quand même une curiosité d'intérêt, de voir la réfection en direct live, comment dirais-je, sur une autre chaîne de télévision, de ce manteau. Je trouve que c'est tout à fait intéressant.
Non seulement la réfection du manteau, mais beaucoup de costumes, des armures et des pièces très intéressantes et des pièces d'archives sorties spécialement pour l'exposition.
D'accord. Alors je vois que vous avez édité ici une espèce de beau journal, un grand 4 pages, fort bien illustré, avec beaucoup de commentaires, toute une chronologie intéressante sur l'ordre du Saint-Esprit. Y aura-t-il une publication? Vous envisagez une publication peut-être à la rentrée?
Il y aura une publication. Cette espèce de journal de l'exposition permet aux visiteurs d'emporter quelque chose. Mais nous allons publier un numéro spécial du bulletin de la Société des Amis du Musée, où il y aura les contributions de personnalités tout à fait intéressantes, notamment le baron Pinoteau que vous mentionnez tout à l'heure. Et une contribution de Jean-Paul Leclerc, conservateur au Musée des Arts de la Mode, et qui parlera du manteau.
Merci infiniment. Je rappelle, non du tout, c'est un plaisir de vous avoir. Je crois que c'est très intéressant parce que c'est un ordre qui est assez peu connu, mais qui a été l'ordre le plus prestigieux, non seulement français, mais aussi au plan international. C'était un ordre tout à fait exceptionnel. Enfin bon, on se l'échangeait, bien sûr, notamment entre les cousins Bourbon, on s'échangeait beaucoup d'ordres. Mais c'est-à-dire que cet ordre a eu aussi un rayonnement en dehors de nos frontières. Donc cette belle exposition, tout à fait intéressante par ce thème de ce manteau que l'on va refaire sous vos yeux, se tient au Musée National de la Légion d'honneur, donc c'est le Palais de Psalm, c'est ça, à Paris, 2 rue de Bellechasse, 75-007 Paris, tout près du Musée d'Orsay.
Donc en face du Musée d'Orsay, voilà, oui,
c'est beaucoup plus joli, le Musée de la Légion d'honneur est beaucoup plus joli que la gare d'Orsay. Mais il faut dire aussi que ce Musée de la Légion d'honneur était un palais qui était habité, parce qu'une gare, c'est une gare. Enfin maintenant, c'est plus une gare, enfin bon, c'est comme ça. Voilà, merci infiniment, et puis au moment où l'ouvrage paraîtra à la rentrée, ça nous ferait très plaisir de vous recevoir de nouveau pour parler du...
Nous préparons une exposition sur les faux ordres et fausses décorations. Ah,
ça risque d'être aussi très drôle. Donc je redonne le téléphone, 45 55 95 16. Merci infiniment et à très bientôt. Un peu de musique, voilà, un tout petit peu de musique, et bien alors là on va entendre quelqu'un qui est très connu, c'est Michel Blavet. Vous ne connaissez pas Michel Blavet? Eh bien, vous allez apprécier. Peut chanter Michel Blavet, c'est une sonate en sol mineur, ça dure un certain temps quand même. Hein. Non, je veux dire, mais on n'a pas, c'est très bien Blavet, mais on n'a pas que ça non plus à faire ce soir, parce qu'on a encore beaucoup d'invités, il va falloir y faire parler. En tout cas, il y a deux auditrices qui s'adressent à moi. Alors bon, l'une me demande si, avez-vous vu le spectacle dont vous venez de parler? C'est le spectacle monté par Michael Lonsdale sur Bernard de Clairvaux? Certainement pas, c'est une vision progressiste. Et la lumière est diabolique. Alors voilà, une autre auditrice recommande ce spectacle, c'est une merveille. Alors je crois que le mieux pour se faire une opinion, c'est peut-être d'aller le voir, et puis de pas le diable, mais le spectacle. Voilà, bon, alors un auditeur, pourquoi faites-vous de la concurrence à l'université des légitimistes avec des universités maurassiennes? Ben, on va en parler justement dans quelques instants, vous voyez. Peut-être parce que nous, les légitimistes, on n'est pas trop sectaires. Alors, une auditrice, vous ne donnez pas assez d'explications sur l'exposition Les Ponts de Paris et le XVIIe siècle. Vous en avez parlé, ça?
Bah, bien sûr, c'est les plans de Paris, pas les ponts de Paris.
Les plans de Paris.
C'est les plans de Paris.
Mais madame, on en reparlera. Voilà, on va en reparler, hein? Logiquement, on aura quelqu'un
de toute
qui va
façon,
venir nous parler. C'est une très, très belle exposition.
Elle dure jusqu'au 25 septembre, donc on a le temps d'aller la voir.
Voilà, alors une auditrice légitimiste me demande, est-ce une émission sur Daniel Amiche ou de Daniel Amiche? Comme vous voulez, c'est à votre choix, voilà. D'écrire le manteau du Saint-Esprit, c'est fait, on en a parlé, puis le mieux c'est d'aller le voir, vous allez voir comment on en refaire. Alors, nous allons à présent... Ah oui, voilà, alors, je salue la présence, que je ne l'ai même pas présentée d'ailleurs, d'une façon extrêmement, extrêmement mal polie, Louis Landau, vous êtes étudiant, c'est ça?
Oui, oui.
Vous êtes en maîtrise d'histoire, je crois.
Non, pas encore.
Pas encore?
Mais ça va venir.
Bon,
je cherche un professeur là pour ma maîtrise que je ne trouve pas d'ailleurs.
Et alors, vous venez nous voir pour nous parler d'une opération que vous montez autour du 14 juillet.
Oui, Voilà, donc j'ai le plaisir de vous annoncer.
Monter un spectacle sur Saint-Bonaventure, comme Michel Lonsdale sur Saint-Bernard de Clairvaux.
Ça risque d'être spectaculaire, mais bon. Nous organisons en fait une série de tractages et de collages d'affiches pour informer nos compatriotes de l'aspect fallacieux du 14 juillet, qui est une date donc que nous réprouvons comme étant la fête nationale. Et dans ce sens, nous avons monté un groupe qui s'appelle Ensemble contre le 14 juillet. Et je fais appel donc à toutes les bonnes volontés pour nous aider. Nous avons déjà travaillé sur le projet depuis 2 mois. Il s'agit de mettre au point les textes des tracts, ce qui a été fait, puis ensuite de choisir les thèmes des affiches. Étant donné que nous avons peu de moyens, peu de temps, nous voulons frapper fort. Alors, ceci dit...
Frapper au sens, c'est au sens figuré que vous...
Bien sûr, ah bon, ouais, bon, nous restons, tout à fait pacifistes. Mais disons qu'au niveau information, nous voudrions être le plus efficace possible. Alors il s'agit d'une première fois, donc nous restons modestes, je dirais même humbles. Nous savons très bien que nos moyens sont limités, mais ceci dit, nous pensons et nous sommes fermement convaincus que nous ne pouvons plus rester bras ballants, bouche bée, à nous lamenter dans nos chaumières face à cet événement du 14 juillet. Donc premièrement, informer. C'est le but des tracts et c'est le contenu qui sera clair, concis et qui s'adressera donc à nos compatriotes dans un sens d'information sur ce qu'est vraiment cette journée du 14 juillet, que ce soit le 14 juillet 1789 ou 1790. Dans tous les cas, il s'agit de faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes et c'est grave parce que...
Et surtout, on sait comment ça se termine à la lanterne.
Absolument. Et c'est grave parce que c'est une journée qui est également fêtée à l'étranger, qui est admirée. Il y a tout un aspect fallacieux et captieux qui est scandaleux. Et donc, nous commençons maintenant. Et chaque année, nous espérons être de plus en plus nombreux. Alors, je fais appel à toutes les bonnes volontés. Nous avons besoin de gens pour tracter, de gens pour coller. Nous avons également besoin d'argent. Mais d'abord, de bonne volonté, d'actes.
Alors, où faut-il s'adresser?
Alors, premièrement... Ceux qui veulent rentrer en contact avec moi peuvent m'appeler à mon numéro personnel.
Bah, donnez-le.
45 65 05 58. Deuxièmement, je donne un rendez-vous. Mardi 5 prochain, au Templier, rue de Rivoli, qui se trouve au niveau de la Tour Saint-Jacques. Je ne connais pas bien le numéro. Entre 18h et 20h. Donc là, je pourrai rencontrer les personnes et discuter avec elles et voir un peu comment disposer des bonnes volontés. Et puis, pour envoyer des sous, autant que faire se peut, vous pouvez envoyer vos dons en les adressant 9 rue Champollion au Sceptre et en les mettant à l'ordre donc du Sceptre, C-E-P-T-R.
On a déjà reçu les...
Rue Champollion, 5e.
Alors donc, je redonne, pour ceux qui veulent participer à cette opération, le 14 juillet, pas comme les autres, il faut téléphoner au 45 65 05 58. Merci Louis, j'espère que votre appel sera entendu.
Et puis, dans tous les cas, ceux qui ne peuvent pas nous aider de façon physique...
sont priés de ne pas nous tirer dessus.
D'accord. Oui, et d'un autre côté, qu'ils prient pour nous, parce que si l'homme combat, c'est Dieu qui donne la victoire.
Bravo. J'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. C'était un procès à Rouen, mais j'ai entendu une chose pareille. Vous avez peut-être des petits messages à nous délivrer, ma chère Anne.
Si on a le temps, parce que on a encore beaucoup.
On va, oui. Allons-y.
Alors, c'est des concerts, mais également des spectacles pour l'été. Premièrement, la fête de la nuit au château du Roi Soleil à Versailles. 14 tableaux pour revivre les grandes fêtes royales au bassin de Neptune. Alors, ce seront des danses, des animations équestres, des feux d'artifice.
C'est le 14 juillet, ça?
Non, pas du tout, justement. Il faut faire attention parce qu'il y a 4 dates différentes, à des horaires différents. Il s'agira donc des samedis 2 et 9 juillet à 22h30 et des samedis 3 et 10 septembre à 22h. Alors, je répète, donc il n'y a que 4 spectacles, donc il faut, à mon avis, réserver longtemps à l'avance. Les samedis 2 et 9 juillet à 22h30 et les samedis 3 et 10 septembre à 22h. Les places varient entre 60 et 185 francs, 60 j'imagine pour les étudiants ou pour les tarifs réduits. Et on peut se renseigner donc à Versailles au 39 50 36, 22. Je répète, 39, 50, 36, 22.
C'est à l'Office du Tourisme.
À l'Office du Tourisme.
Encore un petit un concert, par exemple.
Oui, alors un concert à Reims. Un son et lumière sur le chevet de la cathédrale, tous les samedis à 23h. 120 concerts gratuits du 1er juillet au 28 août. Sous la direction de Menuhin. Vous avez par exemple La Passion selon Saint-Jean de Bach, Motet de Duruflé, Grand-messe en mineur de Mozart, et puis également du Schubert, Debussy, Beethoven, Gershwin, enfin bon. Assez
très
varié.
Bien, très bien, très bien.
Donc pareil, à l'Office du Tourisme de Reims, vous pouvez vous renseigner au 26 47 25 69. Je répète, 26 47 25 69.
On a un truc un peu roico, par exemple, ce serait bien, non, un spectacle
Ben oui, si.
Non.
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 Non. Ben non, le Mont Saint-Michel,
quand même, c'est pour être
intéressant. Ben non, mais moi, on peut toujours tirer un peu.
Mais lancer une annonce à ce moment-là pour en faire
un. Ben oui, c'est ça, c'est une bonne idée, on va en faire un. Et vous voyez, vous avez tout.
Ben écoutez, vous voulez pas mon Mont Saint-Michel, moi j'aime bien.
Ben si, alors dites Mont Saint-Michel, parce qu'on a tellement de Saint-Michelistes.
Alors bon, du 3 juin au 1er octobre, vous avez une scénographie itinérante. Alors c'est un nom un peu compliqué. C'est une découverte nocturne de l'abbaye où le visiteur circule librement suivant un parcours de 1 km dans une vingtaine de salles. Donc on voit le cellier, la crypte, le réfectoire, les chapelles, le cloître, le cimetière. Et les réservations sont à la FNAC. Et pour les renseignements, il faut appeler le 33 60 14 14.
C'est en province
33
ou à Paris,
60 14 14 au Mont-Saint-Michel.
Alors donc c'est par le 16.
Et c'est en Bretagne.
D'accord, par le 16. Rappelez le numéro de téléphone.
33 60 14 14.
Ben c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Un tout petit peu de musique avant qu'on termine avec tous nos amis des universités d'été. Barricade mystérieuse de François Couperin. C'est admirable. Enfin, j'espère que vous admirez.
Oui, oui, bien sûr.
Bon, il y a intérêt. Alors, nous terminons cette 31e session des Fous du Roi en parlant des sessions des universités d'été. Alors, il y en a plusieurs qui sont, enfin, plusieurs responsables et animateurs ou coordinateurs. Coordonnateurs, comme est-ce qu'il faut dire, Michel ?
Les deux sont possibles.
Les deux sont possibles, hein, bon. Sont réunis autour de cette table, alors de droite à gauche, donc Jean-Marie Blackman qui lui dirige, enfin prépare la troisième session de l'Université d'été légitimiste qui va se tenir au mois d'août, c'est ça, pendant une semaine, qui va se terminer sur le 15 août, notre grande fête nationale. L'Université de Renaissance catholique qui se déroule cette année du 18 au 21 août, Donc c'est très bien, c'est-à-dire que vous serez sorti de l'université de Blackpan, vous irez à Shell de Gégère, c'est parfait. Surtout qu'il y a beaucoup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tirs croisés, hein, vous avez des auteurs et des intervenants qui sont un peu mixtes. Bon. Et puis, nous avons donc une université un tout petit peu plus tard, comme ça vous n'irez pas qu'on vous informe pas, on informe les auditeurs à l'avance, une université d'été qui a la particularité de se tenir en automne, quasiment, puisqu'elle commencera le 30 septembre et se terminera le 1er octobre, qui est une très très grande date, 1er octobre. Vous savez pourquoi? Non.
Allez-y.
Non, non, mais c'est là, c'est Saint-Rémy. Et c'est aussi mon anniversaire.
Alors là, les auditeurs vont commencer à dire encore que c'est votre émission.
Mais oui, bah,
écoutez, en fait, ça termine le 2 octobre.
Ah, ça termine le 2. Bon, alors écoutez, c'est parfait, enfin, c'est magnifique. Nous allons commencer par Jean-Marie Blackman. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez cette année?
Écoutez, je crois que c'est un mélange. Je crois que le légitimisme, ce n'est pas simplement l'éternelle question dynastique. Si on voulait se disputer avec nos amis maurassiens ou avec d'autres amis orléanistes, on ne parlerait que de ça toute la journée, du Trècht, de l'Aisne, etc. Je crois que notre vision de la monarchie en tant que légitimiste, c'est une vision globale. Et c'est une conception d'une monarchie authentique qui repose d'abord sur le trône et l'autel, c'est-à-dire la plénitude de la fonction royale, plénitude politique, un roi qui a vraiment l'essentiel du pouvoir rassemblé en ses mains. Et lorsqu'on dit l'autel, une monarchie qui s'inspire de la tradition catholique et qui a une vision sacrée du pouvoir. Et puisque vous avez parlé de Maurras, je tiens à dire ici que beaucoup d'entre nous ont fait nos premières armes en lisant Maurras, et que souvent je rappelle une phrase d'un de nos conférenciers, Maître Bousco, qui est de formation maurassienne et qui répond parfois à des gens un peu sectaires qui critiquent Maurras. Il leur dit, écoutez, Maurras... Peut-être faut-il le dépasser, encore faut-il l'atteindre. Alors je salue ici Maurras et les Maurassiens.
Ah ben c'est drôlement, c'est aimable, vous ne pouvez pas dire quand même que vous êtes tombé dans un traquenard, n'est-ce pas? Bon, alors ça va durer, vous, ça dure presque une semaine, c'est une véritable, ça 6 jours, n'est-ce pas?
Voilà, 6 jours.
6 jours. Et alors ça se passe comment alors exactement?
Ben écoutez, je crois que c'est une période d'été, alors il faut à la fois, bon, des conférences de haut niveau, mais il faut aussi beaucoup de loisirs. Et on insiste beaucoup là-dessus. On ira voir notamment le château du Plessis-Bourré, qui est un très très beau château avec des douves. Nous irons voir le Prytanée de la Flèche, Prytanée militaire, qui vous savez est une immense bâtisse fondée par Henri IV. Très très belle architecture du XVIIe.
Le cœur d'Henri IV est toujours conservé en principe au Prytanée de la Flèche.
Voilà,
il est dans une des deux urnes qui surmonte le maître-autel, la chapelle.
Voilà. Alors nous ferons aussi une veillée. Angevine, puisque nous avons la chance d'être reçus par un descendant de Catlino. Nous faisons venir Jean Brochard, qui avait animé le 22 mai pour le Mont des Alouettes, et qui, autour d'un très grand feu, va nous faire vivre un peu cette terre d'Anjou, qui est à...
Parce que c'est en Anjou que se tient l'an passé.
C'est en Anjou, comme nous sommes des fidèles du duc d'Anjou, eh bien nous faisons la totale, nous faisons l'université d'été en Anjou.
Et qu'est-ce qu'on boira alors comme vin?
Ben écoutez, peut-être de l'Anjou. Voilà, ben, alors, nous irons aussi au Puy du Fou, et pour voir le spectacle, bien sûr, qui a été fondé par Philippe Vévillier.
C'est une concession à la modernité, ça, monsieur Blackman.
Voilà, ben écoutez, nous ferons d'autres choses plus anciennes, plus ancestrales aussi.
Alors, vous avez édité un très beau dépliant programme, magnifiquement illustré, tout en couleurs, enfin, c'est superbe. Donc, je donne quand même l'information pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage, donc de s'adresser directement à l'Université d'été légitimiste, ou si l'on veut en abréger UEL, ou UEL, ce serait plus convenable. C'est au 4 Square des Nuetes. On est espagnol, donc on prononce à l'espagnol, des nuetes, c'est des nouettes en français, c'est ça, 75 015 Paris, et le téléphone, où vous pourrez laisser un message, ou le soir tomber sans doute sur monsieur Blackman en personne, c'est le 48 28 50 36, 48 28 50 36, donc Université d'été légitimiste, troisième session.
Alors, je voulais simplement préciser pour tous nos amis que la semaine, bien sûr, est destinée prioritairement aux jeunes, mais qu'à la fin de cette semaine, nous faisons une grande journée, le 15 août.
Une journée porte ouverte le 15 août, voilà.
Avec une procession, avec une statue de la Sainte Vierge, avec une conférence sur les colonnes infernales, puisque 94, c'est le bicentenaire de ces colonnes infernales, et il faut rafraîchir un peu notre mémoire collective, et il y aura un déjeuner dehors, Et là, nous invitons tous les fidèles royalistes et même tout simplement patriotes à venir chez nous prier la Sainte Vierge, manger, boire un peu d'Anjou, écouter une belle conférence.
Voilà, ben c'est très bien. Donc 15 août, grande journée, portes ouvertes pour la fête nationale des Français. Alors, deuxième université, elle est un peu dans une thématique assez proche, en fin de compte, de celle que vient d'aborder notre ami Blackman, c'est celle de l'Université de Renaissance catholique, dont Michel de Gégère est le coordonnateur depuis déjà 2 ou 3 ans.
Ça fait 3 ans qu'elle existe.
Ça fait 3 ans.
Troisième édition.
Voilà, vous êtes tous contemporains, vous avez le même âge, hein, on fêtera votre anniversaire, votre trentenaire, ensemble plus tard. Donc cette année, ça se tient du 18 au 21 août, toujours à Mérigny?
Non, cette année c'est à Ancy-le-Franc, en Bourgogne, donc nous déménageons parce qu'il n'y avait plus de place à Mérigny, un petit peu victime de notre succès, dans la mesure où nous étions partis sur l'idée de réunir 150 à 200 personnes, et là on atteint plus de 300 personnes, et c'était plus possible à Mérigny. Donc nous déménageons pour Ancy-le-Franc, c'est un très beau château en Bourgogne.
Ah, c'est pas vilain, hein.
Oui, c'est un château de la Renaissance, ça présente des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'on perd l'accompagnement spirituel, je dirais, de la Fraternité de la Transfiguration, à laquelle nous sommes très attachés. L'avantage, c'est que c'est situé, disons, à 1 heure de train de Paris, à 200 km au sud de Paris. C'est aussi près de Paris que de Lyon, puisque c'est à côté de la gare de TGV de Montbard. Donc c'est très facile d'accès pour beaucoup de gens.
D'accord. Alors le thème cette année, c'est le glaive et la croix. Et les années précédentes,
il y avait la spécificité, si je puis dire, de l'Université de Renaissance catholique par rapport à d'autres universités, vous nous mettez dans une situation embarrassante de concurrence, d'autant qu'on est chez vous. Mais enfin, disons que c'est la spécificité.
Mais vous êtes chez vous, chez nous.
Ouais,
vous
heureusement, ce n'est pas la même date, donc pour une fois, les choses sont bien faites. Sa spécificité, c'est que nous avons, étant un mouvement, disons, assez large, puisque c'est un mouvement de laïcs catholiques traditionnels, qui n'ont pas de doctrine politique très définie.
Vous n'avez pas de doctrine à Renaissance catholique?
Non. La doctrine est évidemment la doctrine traditionnelle de l'Église et de ses rapports avec entre la politique et la religion. Mais disons que nous n'avons pas une cible aussi pointue qu'université légitimiste ou université maurassienne. Et donc le parti que nous avons pris depuis l'origine est de faire des universités à thème, pour éviter de faire des universités où viennent un petit peu tous les orateurs qu'on aime bien, les orateurs de la famille, pour parler de leur sujet de prédilection.
C'est le parti le plus difficile, c'est de faire une université à thème.
Voilà, donc la première année, il y a 3 ans, nous avons fait une université autour du thème de la découverte de l'Amérique, du 5e centenaire de découverte de l'Amérique. L'année dernière, nous avions célébré, ils ont commémoré, ce serait plus juste, le bicentenaire de la Terreur. Et cette année, nous avons pris comme thème les relations entre l'Église et l'État, la politique et la religion. C'était un thème assez naturel pour nous, dans la mesure où Renaissance catholique est un mouvement de laïcs qui se propose de restaurer la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était donc naturel, normal et je dirais indispensable que nous interrogions sur les relations légitimes entre l'Église et l'État et entre la politique et la religion, à une époque où la laïcité est présentée comme un idéal insurpassable et où même chez de bons catholiques, il y a l'idée que la foi est d'un ordre, la politique d'un autre, et que ce sont deux ordres absolument étanches qui n'ont pas de conséquences et de corrélations l'une sur l'autre. Nous ne sommes pas évidemment favorables à une théocratie, nous ne sommes pas favorables à une confusion du spirituel et du temporel, mais nous pensons que le spirituel et le temporel doivent être articulés, ne doivent pas être absolument séparés. Quelle est cette articulation légitime dans la doctrine de l'Église? Quelle est cette articulation? Quelles ont été les manifestations de cette articulation dans l'histoire de l'Église catholique, de la France catholique? C'est ce que nous avons demandé à un certain nombre d'historiens, d'essayistes, de journalistes, d'essayer de préciser avec nous. Donc c'est une université qui a une double détente, une détente, une partie historique, où nous essayons d'explorer les différents épisodes de l'histoire des relations entre l'Église et l'État, et une partie plus philosophique et politique, où nous essayons de déterminer quels sont, au regard de la doctrine traditionnelle de l'Église, les rapports légitimes entre la politique et la religion.
je crois que ce sera aussi tout à fait excellent, une très bonne occasion d'aller réfléchir avec des gens de qualité. Enfin, il y en a aussi beaucoup chez Jean-Marie Blackman, mais là, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens de qualité. Puis alors, il y a des croisements, il y a des tirs croisés, là, parce qu'on voit que le bon Serge de Beckett sera aux deux, ne veut faire de peine à personne. Il vient pas chez vous, hein, je sais pas pourquoi, là. Bon, alors, donc, université, troisième université d'été de Renaissance catholique, du 18 au 21 août, cette année donc au château d'Ancilfranc, qui rien que pour ça ne vaut le déplacement, parce que c'est une merveille.
J'ai une petite précision à apporter, parce qu'un des atouts de notre université d'été, vous me direz que c'est un atout misérable, mais c'est qu'elle n'est pas chère, parce que nous essayons de tirer les prix au maximum, on ne fait pas de profit là-dessus, au contraire, et donc c'est quelque chose qui dure 4 jours et qui est accessible à peu près à tous, je pense, en vacances, dans la mesure où, sans l'hébergement, on commence à partir de 490 francs, et avec hébergement, pension complète, on ne va pas au-delà de 800 ou 1000 francs, suivant les formes choisies. Il y a toutes sortes de formules, et il y a également, ce qui est très important, puisque on s'adresse beaucoup, non seulement à des étudiants, mais à des gens de tous âges, notamment des parents qui ont des enfants, il y a une garderie pour les enfants, que l'on prend en charge du matin au soir, ayant dîné et n'ayant qu'à se coucher. Après les travaux de l'université d'été.
Eh ben c'est excellent. Donc, université de Renaissance catholique. Alors, je vais donner l'adresse de Renaissance catholique. C'est 89 rue Pierre Brosselette. Et je ne ferai aucun commentaire parce que ça m'a été vivement reproché. Donc, 89 rue Pierre Brosselette. Bien. 92-130 à Issy-les-Moulineaux. 92-130 Issy-les-Moulineaux. Je crois que Brosselette
n'était pas... un commentaire sur Issy-les-Moulineaux.
Non, mais Brosselette n'était pas Maurassien, autant que je sache. Hein. C'est
ni Issy-les-Moulineaux.
D'accord.
Et 89, alors, c'est pas un numéro de la section étagée.
Alors, le téléphone, 46-62-97-04, 46-62-97-04, et puis il y a aussi une télécopie auquel on peut envoyer des demandes pour recevoir toute information utile sur cette université d'été consacrée au thème Le Glaive et la Croix. 46-62-95-19, 46-62-95-19, c'est la télécopie. Alors, je passe au last but not least. Peut-être pas marcher la clochette là, non?
Non, non bon. Plus.
Alors, on a le droit de temps en temps de donner des expressions un peu, qui sont connues par tout le monde. Alors, quelle est la différence? Alors, question d'un auditeur. Quelle est la différence entre l'université d'été de monsieur Lapac et le camp de Maxime Real del Sarthe? Alors, on va demander tout de suite à Sébastien Lapac, et non pas Labac, quelle est la différence?
La première différence, c'est que le camp Maxime Real del Sarthe est un camp de formation destiné à des militants politiques qui répondent à une certaine discipline politique ou même d'obéissance à un certain nombre de consignes dynastiques, puisqu'on a parlé du problème, tandis que l'université d'été de réaction est une université de réflexion, de gens qui se sont retrouvés autour d'un pôle, effectivement maurassien, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais il n'y a pas de discipline politique, on a le droit d'être de droite ou de gauche, d'être pour le grand monarque ou pour le petit monarque ou pour celui qu'on veut. On a le droit d'aimer Anatole France ou de le détester. Donc c'est un petit peu la différence. Il n'y a pas de discipline politique. Et donc c'est effectivement cette idée de maurassien au sens le plus large permet de réunir un certain nombre de personnes qui soient entièrement maurassiens pour qu'il soit le maître un petit peu central ou au contraire que ce soit des gens chez qui c'est un auteur, pour qui c'est un auteur important, mais qui aime compléter par d'autres, notamment des auteurs peut-être plus spirituels comme Joseph de Maistre ou même comme Bernanos par exemple. Donc je pense que c'est la grande différence dans notre démarche de réaction, et puis bon, les auditeurs qui ont entendu parler souvent de réaction à cette antenne savent très bien qu'il y a comme collaborateurs de la revue des gens qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à l'Action française, et donc qui sont affiliés ou pas au dire au Croix des Petits Champs. Parfois même des gens qui sont farouchement opposés, je dirais, à cette officine, ou des gens qui y appartiennent. Donc nous, c'est comme toujours dans notre démarche, toujours très intellectuel, et donc il n'y a pas du tout, on ne fusillera pas les gens qui par exemple, trouvent que le comte de Clermont est un peu ridicule.
D'autre part, bon, notre projet est un peu plus modeste que celui des... Enfin, c'est pas vraiment une université d'été, c'est simplement un séminaire de réflexion, d'où la durée assez brève, puisque ça dure en fait...
Ça dure trois jours.
Ça dure trois jours, enfin...
Deux jours et demi.
L'avantage, c'est que c'est aussi beaucoup moins cher, puisque ça ne coûte que 250 francs à personne.
Oui, mais c'est dense, hein.
Oui, c'est assez dense. Et alors là, effectivement, on a voulu préférer concentrer, effectivement, les... notre effort sur la réflexion et on essaie de passer en revue, en batterie très rapidement et de façon le plus intense possible.
C'est Omar Sala qui s'exprime. Quel thème ?
Alors le thème de cette première université premier séminaire de réaction, c'est précisément, mais alors ça c'est en lien direct avec le numéro de réaction qui sera le numéro 14, qui sera consacré effectivement à la pensée maurrassienne, c'est en fait Maurras 50 ans après son procès, une quarantaine d'années après sa mort. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour faire notre miel aujourd'hui et demain ? C'est autour de ça qu'on va essayer de réfléchir avec l'équipe de réaction.
Vous avez un peu mobilisé donc toute votre équipe rédactionnelle, qui sont des gens de qualité, enfin dans le paysage. Je dirais politique ou doctrinale français, c'est quand même une revue qu'on peut lire avec intérêt.
J'espère. Mais l'idée justement sur Maurras n'est pas, je dirais, de professer un catéchisme maurrassien, c'est le nom d'une des premières conférences qu'on va faire, mais au contraire de faire un inventaire sur la pensée maurrassienne, c'est-à-dire, quel que soit le niveau de lecture qu'on a de Maurras, que ça se conçoit plutôt centré sur le fédéralisme, sur le problème du catholicisme, sur le problème du nationalisme maurrassien que certains voient en opposition à son royalisme, de son esthétique, de la place de l'espérance dans son œuvre, ça sera, la conférence sera toujours en fait à l'origine d'un débat entre les intervenants et entre les auditeurs, puisque notre idée, notre but, c'est de faire un inventaire. Et donc la grande différence, par exemple, avec un camp Maxime Réal-Dessart organisé par l'Action française, c'est que on n'est pas là pour apprendre quelque chose avec les gens, mais au contraire, venir discuter avec toutes les personnes qui, effectivement, à un moment ou à un autre, ont croisé Maurras et veulent maintenant faire un petit peu un bilan.
Alors, je m'empresse de dire, je ne vous coupe pas, parce que je vous redonne la parole tout de suite, bien sûr, que s'il n'y a pas ce soir d'animateur du camp Maxime Réal-Dessart, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu l'inviter, parce que moi, l'invitation était évidemment ouverte, mais bon, on n'a pas daigné m'appeler, donc peut-être ce sont des meilleurs moyens de communication que la radio. Alors, continuez encore, expliquez-nous un petit peu.
Donc, je pense que, effectivement, il y a plusieurs niveaux de lecture de Maurras qui renvoient à un certain nombre de conférences et de thèmes sur lesquels on va vouloir débattre. Cette idée de catéchisme maurrassien dont je parlais tout à l'heure et qui est une des conférences introductives pour nous est très importante. On s'est tous plus ou moins vu asséner un catéchisme maurrassien. Je parlais tout à l'heure d'Anatole France et c'était quasiment à ce niveau de caricature. On était obligé d'aimer la bouillabaisse et Anatole France si on voulait être un vrai maurrassien. On essaye un petit peu de dépasser ce niveau de lecture.
La bouillabaisse, c'est pas mauvais quand même.
Tout à fait, mais il y a la recette maurrassienne qu'il faut bien connaître et bien pratiquer. Et effectivement, aujourd'hui, c'est de savoir quelle place peut avoir Maurras dans une reconstruction politique et dans notre espérance qui est à la fois naturelle et surnaturelle, et de savoir, je dirais, la pierre maurrassienne, quelle place elle va prendre dans la cathédrale que nous avons à bâtir.
Mais ça, ils vont pas l'acheter, c'est pour construire une pierre c'est pas une pierre de gêne, n'est-ce pas? C'est une pierre
d'achoppement. Toujours, c'est toujours.
Une pierre d'achoppement aussi.
Nous, on a tous ici une expérience des universités d'été, un peu des sessions où on cherche à former des gens. Au contraire, là, ça sera un niveau de débat, un petit peu, dans un esprit un petit peu différent, totalement complémentaire. Je crois que c'est important, moi, pour avoir longtemps fréquenté des universités de formation, je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel pour les jeunes. Mais on a aussi cette idée de dire que des gens arrivés à 25, 30, 35 ans, généralement, ont tendance à un petit peu s'éloigner de cet engagement parce qu'on leur répétera toujours la même chose. Il y a un moment où ils voudraient débattre, ils ont leur niveau de lecture, effectivement, et qu'on leur parle de Maurras d'une façon un petit peu dogmatique ne leur convient plus. Donc on essaye au contraire maintenant d'attirer ce type de personnes par un débat.
Juste une petite question, ça se passe où ?
Alors ça se passe dans le Perche.
Alors dans le Perche, précisez aux auditeurs où se trouve le Perche.
Le Perche, parce que c'est pas évident. C'est donc au sud de la Normandie, aux bornes du Maine. C'est républicainement, si vous voulez, dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard.
Il y a du vin là-bas.
Il y a encore du délicieux. Et en fait, on peut faire venir tout le vin.
Renaissance catholique Bourgogne, les légitimes.
On vous donnera de l'Anjou.
On vous donnera. Échangez-vous des bonnes. Et voilà, échangez-vous des bonnes. Échangez-vous des bonnes choses. Alors donc c'est dans le Perche. Alors
c'est dans le Perche. Et donc c'est beaucoup plus bref. Et c'est en fait à 1h30 de Paris en voiture par l'autoroute ou à 2h par le train.
Facile d'accès également. Donc je donne quand même le téléphone. De toute façon, bon, c'est pour le 30 septembre, 1er et 2 octobre. Donc on s'y est pris un petit peu à l'avance, c'est très bien, mais enfin, prévoyez à l'avance, amis auditeurs. Donc, si vous voulez des renseignements sur l'université organisée par nos amis de la revue Réaction, vous appelez à partir avant 20h, donc c'est assez trop tard pour ce soir, au 45 38 58 82.
Ah, je voudrais signaler une petite chose.
Oui, vous avez 30 secondes,
pour les
Sébastien.
Auditeurs qui sont des sympathisants du Grand Monarque, il y a non loin de la Ferté Bernard, l'hôtel Le Grand Monarque, et auxquels ils auront certainement le plaisir de réserver une chambre. Et je pense que c'est quelque chose de.
C'est aussi le nom de l'hôtel où a été arrêté Louis XVI lors de la fuite à Varennes.
C'est vrai. Et c'est là où Jules-Duc d'Anjou a aussi déjeuné quand il était à Chartres. Ça s'appelle l'hôtel du Grand Monarque à Chartres aussi. Vous voyez,
tout se tient.
C'est la jubilation des hasards, comme dirait l'autre. Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, merci Jean-Marie Blackman et l'Université d'été légitimiste. Merci Michel de Gégère pour nous avoir parlé de l'Université de Renaissance catholique. Merci Sébastien Lapac et Omar Salah d'être venus parler de la prochaine et de la première, d'ailleurs, non pas université, mais séminaire de nos amis de la revue Réaction. Merci donc à tous les auditeurs. À donc un jour pour un nouveau programme. Et puis alors, nous allons terminer cette émission comme nous ne l'avons pas commencé, c'est-à-dire en écoutant donc effectivement notre petite musique rituelle. Que Dieu vous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Françoise Varlet, document d'archives datant du 29 juin 1994 et diffusé dimanche 7 novembre 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 4h53.